Buzz, à Boulevard 102.1, avec Jeff Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
On en jase, ton émission du midi sur Boulevard 101, il est précisément midi. Jeff Fortin, pas Pascal CV, car elle est en vacances. C'est avec Mathias Turcotte cette semaine. Notre nouvel employé à temps plein à Boulevard 102. On est tellement content de compter sur lui. Conseil municipal la semaine prochaine, Matt.
Yes, sir, ça commence en force.
Oui, mardi prochain, tu vas aller voir nos élus municipaux. Ils vont être tout fringants de leurs vacances du temps des fêtes, prêts à débattre. Toujours le fun, la rentrée, que ce soit la rentrée d'automne ou la rentrée d'hiver. Il y a un peu de fébrilité dans l'air.
Puis là, c'est la rentrée pour eux, puis c'est ma rentrée officielle aussi. Ça va devenir ma routine, ça. Chaque mois, conseil de ville, je vais être là, présent pour vous dire ce qui se passe dans l'actualité locale, couvrir tous les points de presse. Puis j'en profite pour souligner, si jamais vous avez de l'information, si jamais il y a une situation dans vos vies qui arrive, puis vous êtes comme ça, aucun bon sens, ça peut être n'importe quoi, là. Déneigement, vous trouvez que ça n'a pas d'allure, vous avez de la difficulté avec le service des déchets, avec n'importe quel service dans la ville de Québec, vous voyez une situation que vous voulez dénoncer, écrivez-moi citoyen@commercialbvd.fm, ça tombe directement dans ma boîte courriel. Et comme ça, moi, si jamais je pense qu'il y a un dossier à faire, que je peux l'amener en onde, ça va me faire plaisir de le faire.
Super initiative de Boulevard, superbe initiative de toi, Mathias. Donc, franchement, quand on vous dit qu'on est une radio locale, qu'on est là pour vous et qu'on veut traiter d'actualités locales et municipales le plus possible, ben c'est pas des menteries. On le fait pour de vrai, c'est ça, Boulevard 101. Citoyen au singulier, qu'on me demande par texto.
Citoyen au singulier, exactement. @commercialbsvd.fm, si vous voulez me rejoindre pour n'importe quel dossier.
Excellent. 418-971-101, d'ailleurs, pour interagir par texto. On va avoir l'excellent Victor Henriquez dans quelques minutes en remplacement d'Antonine Iaccarini. On va également avoir la chronique de Rémi Villemur qui revient de vacances avec nous. On est très heureux de pouvoir compter sur Rémi. On va aussi avoir dans l'émission la directrice générale de la SDC de Montcalm qui va venir nous parler des travaux du tramway. Ça, je sens que ça va vous faire réagir. Des travaux qui sont nécessaires, mais des travaux qui n'ont pas nécessairement été bien communiqués alors que la Ville de Québec s'était engagée à bien communiquer. Donc, on va parler de tout ça plus tard dans l'émission. BLVD.fm, c'est pour entendre nos meilleurs moments qui se retrouvent sur le BLVD.fm. D'ailleurs, le caucus avec Victor Henriquez va s'y retrouver. Mais c'est aussi la web radio si vous voulez nous écouter. Meilleure façon de nous écouter, l'application Boulevard 102 est disponible App Store, Google Play Store. Vous téléchargez le tout et vous pouvez nous écouter partout où vous êtes. twitch.tv/BLVD/FM pour venir voir nos belles faces en studio. De moi et Mathias, je le sais, il n'y a pas de Pascal en studio.
Non.
Il n'y a pas d'Audrey. Il n'y a pas de Véro. Dans ce temps-là, il y a moins de monde sur Twitch, mais venez nous voir quand même, ça nous fait plaisir. Et interagissez dans le chat. Je prends toujours justement de vos commentaires dans le chat durant l'émission. J'adore avoir les interactions des gens. Haut-parleur intelligent, on dit écoutez BLVD 102. J'ai ça chez nous depuis le temps des fêtes. Écoutez BLVD. Je fais ça la fin de semaine. Paf! C'est Colosse ou Dan Caron ou Audrey Pinchot avec le Rock and Chill ou Matt Marcotte avec le rack à Matt qui apparaissent dans ma cuisine. Je trippe bien raide. Et abonnez-vous à notre page YouTube. Vous avez nos podcasts en version imagé, donc en image, le podcast, notamment les 5 podcasts sur les grands événements de Denis Gravel. Et on est en train de vous concevoir une nouvelle série hors série. Vous allez pouvoir aller voir ça sur notre page YouTube BLVD. Abonnez-vous.
Une chose est sûre, c'est que vous n'avez pas d'excuse de ne pas nous écouter. Il y a des moyens en masse de faire.
Ah ouais, tu trouves que j'ai fait une longue liste? Je comprends pas.
T'as fait une longue liste complète, variée. Donc, rendu là, c'est à votre choix.
Exactement. Avant le caucus avec Victor Henriquez, on va parler de Charles Milliard, de Mark Carney en Chine, de sa clique qui marche pas pantoute encore et de l'Iran. Qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité plus locale, Mathieu?
Ça brasse beaucoup du côté du SPVQ, là, donc ça va surtout se concentrer sur ça. Susanna Roca-Cruz, ce nom-là vous dit peut-être quelque chose. C'est une femme de 44 ans qui est maintenant disparue depuis une semaine, 7 janvier dernier, vers 21h, qu'elle a été aperçue pour la dernière fois dans le secteur de Sainte-Foy. Un homme a été arrêté en lien avec cette disparition. disparition-là. On dit que c'est un proche de la femme en question, un suspect de 43 ans. Il est officiellement accusé de voies de fait avec lésion parce que la police a des raisons de croire que la victime a été blessée. Pourtant, la femme en question n'a toujours pas été retrouvée. On dit du côté de la police que plusieurs accusations supplémentaires pourraient s'ajouter au fil du temps. On va suivre ce dossier-là de près. La femme de 44 ans est une femme d'origine mexicaine. Elle mesure 5 pieds 2, yeux bruns, cheveux bruns. Donc, si jamais vous pensez avoir de l'information, veuillez contacter le service de police de la ville de Québec. Je vous parle du service de police, puis ça brasse, parce que ils enquêtent présentement sur la mort inexpliquée d'une femme de Limoilou, âgée de la cinquantaine. C'est hier qu'ils ont reçu un appel au 911. Qui demandait une assistance aux ambulanciers concernant une dame, justement, qui se situait dans un appartement de la rue de la Sapinière d'Orion-Ouest. C'est un peu avant 15 heures que ça s'est passé. Les policiers se sont rendus sur place pour, avec les paramédics dans le but de secourir la victime. Malheureusement, elle était déjà décédée. Aucune trace de violence évidente, mais la mort reste suspecte. Donc, présentement, des véhicules de patrouille se sont rendus sur place et enquêtent pour avoir un peu plus de détails. Je termine avec un dernier fait divers. Un incendie de véhicule d'origine suspecte s'est déclaré dans le secteur de Mézeray à Québec dans la nuit d'hier. C'est vers 3h20 du matin. Il y a présentement une enquête parce qu'on pense que ça pourrait être d'origine criminelle. Aucune thèse n'est écartée. Encore une fois, les véhicules qui se font vandaliser, qui se font voler, qui se font incendier, ça devient de plus en plus redondant ces temps-ci.
Un début d'année très spécial en 2026 à Québec où il y a énormément de criminalité. Donc, on va souhaiter justement que ça s'apaise rapidement. J'ai très confiance en notre service de police, le SPVQ, qui a connu une année 2025 exceptionnelle avec énormément d'arrestations dans la guerre de gangs criminalisés. Mais on va vraiment souhaiter que ça se tempère à Québec.
Oui, parce qu'on lit des nouvelles, puis mettons...
Ouf, non, ça me donne froid dans le dos à chaque fois. Je me dis, hey, ma belle ville de Québec sécuritaire est rendue. Donc, on va souhaiter un apaisement collectif. On passe au caucus.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
On vous l'a dit hier, c'est un retour progressif d'Antonine Iaccarini parce qu'elle n'en peut plus de faire de la radio avec Jeff Fortin. Fait qu'elle s'est dit « Wow, minute, je reviens un jour puis je me sauve. » Fait que quand Antonine n'est pas là, on appelle l'excellent Victor Henriquez. Il est justement avec nous. Victor Henriquez, comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Ça va bien. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer, Victor.
Ah, moi, je trouve ça génial. Je remercie Antonine de me laisser sa chaise une fois de temps en temps. J'apprécie vraiment.
Excellent. Hey, Victor, je veux commencer avec la SAAC, l'autorité des marchés publics qui a vraiment été très dure envers la SAAC et sa clique dans la gestion, justement, de ce projet informatique qui est rendu, rappelons-le, à 1,1 milliard et ce n'est pas terminé. Et là, on parle de fractionnement de contrats volontaires pour ne pas avoir de reddition de compte à faire, justement, de fait qu'on n'a pas bien suivi le contrat maître, qu'on a créé des sous-contrats qu'on n'avait pas à créer. Bref, la SAAC va être suivie de très près pour le reste du projet par l'autorité des marchés publics. C'est pas une surprise et ça met bien la table pour le rapport de la commission Galland.
Oui, et je pense que c'est important de dire bravo aujourd'hui à l'autorité des marchés publics parce que ça arrive souvent qu'on crée des structures au gouvernement puis que le public nous dise « Ouais, mais à quoi ça sert d'ajouter des structures? »
Oui, comme Santé l'autorité... Québec, par exemple.
Ben exactement. Puis l'autorité des marchés publics, ça a été créé après la commission Charbonneau. Ça faisait partie des recommandations. Ça a été créé par le gouvernement actuel. Puis là, on regarde les résultats puis on se dit « Ben, c'est à ça que ça sert. » C'est à surveiller justement ce genre de situation-là. Maintenant, on espère qu'ils auront l'occasion de le surveiller de façon plus proactive. Il faut se rappeler que s'il n'y avait pas eu des dénonciations dans ce cas-ci, on serait peut-être encore en train de se demander ce qui se passe avec l'argent à la SAAC. Mm-hmm. Et là, ce qu'on voit de la part de l'AMP, c'est qu'il y aura une surveillance prolongée tout au long du processus. L'AMP nous dit des choses qu'on savait, mais elle nous le confirme, hein, cette espèce de fractionnement de contrats, beaucoup d'irrégularités, comité de sélection, planification déficiente. Dans le fond... Monsieur Malenfant et son équipe, quand ils ont décidé d'embaucher Mado puis Loulou, là, rappelez-vous, c'était les surnoms qu'ils donnaient à ses collaborateurs.
Le party pyjama.
Le party pyjama avec Mado puis Loulou. Ben, quand ils ont décidé de les embaucher, il y a une espèce de vision tunnel qui s'est installée, volontaire ou pas, ça, ce sera la commission Galland de nous le dire. Mais on a regardé seulement ce que SAP Canada faisait, puis on n'a pas regardé c'était quoi la compétition, c'était quoi les autres options. Hein. Donc, ce qui est intéressant à ce moment-ci, c'est que la MP va remettre de l'ordre là-dedans de ce qu'elle nous dit. Elle oblige la SAAQ à faire rapport régulièrement, à revoir ses façons d'octroyer les contrats, à améliorer le processus de rédaction des appels d'offres, puis à s'assurer que, on remette à jour la façon de donner des contrats à la SAQ très rapidement. Et d'ailleurs, la PDG a dit qu'elle avait déjà commencé à implanter des choses et que la SAQ allait implanter les conclusions de l'AMP dans les meilleurs délais.
Victor, est-ce qu'on s'en va par contre avec un rapport de la commission Galant qui sera très... Puis là, je vais prendre l'expression anglaise, très soft envers les élus, parce que quand je lis ce que l'Autorité des marchés publics mentionne, elle mentionne notamment que le Trésor a été très mal informé de la valeur réelle des contrats. Donc, est-ce que les politiciens vont réussir à sauver de ce cafouillage?
C'est très rare que les commissions d'enquête mettent le doigt sur les politiciens puis mettent des blâmes sur le politicien parce que ce qu'on se rend compte, c'est que dans ces machines gouvernementales, l'information a beaucoup de difficultés à circuler. Puis j'ai parlé de Charbonneau en début d'analyse justement parce que Charbonneau a amené à la création de l'AMP. Ce serait intéressant de voir surtout si la commission Galant nous donne des recommandations pour l'avenir. De là à avoir des blâmes, moi, je ne m'attends pas à ce que la commission Galant fasse d'énormes blâmes. Je pense qu'il est possible que le gouvernement se fasse taper sur les doigts pour le fait peut-être de ne pas avoir posé assez de questions ou de pas avoir ou d'avoir laissé en place des gens qui ne donnaient pas des questions, des réponses assez rapides. Mais je ne m'attends pas à avoir des grands blâmes de la part du commissaire Galant. Ça n'a pas l'air d'être son style non plus. Quand on regarde le rapport de Charbonneau auquel il a participé, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement comme ça que les commissions d'enquête se concluent. Ce qui fait que, je vous l'annonce, hein, on sera certainement déçus. Pour ceux qui attendent des blâmes envers des politiciens, on sera déçus peut-être du rapport d'enquête. Ce sera à voir maintenant si les électeurs feront leur choix après.
Mais s'il n'y a pas de grand blâme provenant de cette commission-là, on le voit, c'est pas de ce dossier numérique présentement que c'est un désastre puis qu'il y a des dépassements de coûts, des contrats octroyés questionnables. Comment qu'on fait en sorte que des situations comme ça qui semblent se multiplier, ben ça se passe plus?
C'est là où les structures seront là pour nous protéger. Hein. Puis, je parlais de l'AMP, mais souvent, ce qui arrive, c'est que la structure est supposée te protéger contre l'incompétence ou l'aveuglement ou le manque d'attention ou les erreurs des êtres humains qui sont dans la machine. Alors, moi, c'est pour ça que dans le rapport Galant, je m'attends à avoir des recommandations sur qu'est-ce que le gouvernement peut mettre en place pour que, comme tu dis, Mathias, on arrête de gérer tout croche ces projets de transformation numérique, puis on essaie d'en contrôler les coûts. Ce que je ne m'attends pas, c'est que le rapport Galant dise la ministre a eu tort sur ça ou François Bonnardel avait tort sur ci. Ça, je ne le verrai pas dans le rapport, je suis pas mal convaincu. Et si je le vois, ben, ça va être de façon assez soft, parce qu'ultimement, sur les élus, c'est la population qui va choisir ce qu'il fait avec les élus. Mais s'il n'y a pas de recommandation de façon de faire, c'est là où on aura un enjeu majeur, parce que Commission de la construction du Québec, la RAMQ, Santé Québec, et ça, c'est juste trois organisations qui sont en transformation numérique, et au gouvernement, tout sera en transformation numérique pendant les prochaines années. Donc, on doit absolument s'assurer d'avoir des conclusions intéressantes sur comment faire pour ne pas revoir un scandale comme ce fiasco.
Mark Carney est en visite en Chine tout à l'heure avec Rémi Villemur aux alentours de 13h. On va se poser la question éthique, mais je veux parler avec toi, Victor, de la question économique. Est-ce que lorsque Mark Carney va quitter la Chine, on va avoir signé des ententes économiques? Et est-ce que les voitures électriques chinoises vont avoir accès au marché canadien?
Je ne pense pas cette fois-ci. Il faut quand même rappeler d'où est-ce qu'on sort avec la Chine. Hein. 2017, c'était la fin des relations diplomatiques avec la Chine suite à la deuxième visite de Justin Trudeau. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2015, quand Justin Trudeau arrive au pouvoir, la Chine est un marché énorme. Justin Trudeau veut ouvrir ce marché-là. Son père avait d'excellentes relations avec la Chine et Justin Trudeau s'en va en Chine une première fois pour discuter avec les Chinois, puis s'en va dire au président: Ah, je vais vous aider à prendre votre place sur la scène internationale. À ce moment-là, le gouvernement chinois appelle l'ambassadeur puis leur dit: Ouais, on dirait que votre premier ministre, il est un peu arrogant. Et là, on retourne pour une deuxième visite pour parler d'un accord de libre-échange. Et là, on s'attend à un accord de libre-échange en 2017. Et Justin Trudeau se met à parler oui, d'éthique, mais se met à parler, par exemple, d'égalité des genres et de différents éléments sociaux qu'il voulait voir intégrés dans ses relations commerciales. Les Chinois ont fermé la porte et on connaît la suite. En 2018, la vice-présidente de Huawei arrive à Vancouver, se fait arrêter à la demande des États-Unis. La Chine réplique à l'arrestation des deux Michael et on a mis une espèce de froid ou de gel diplomatique depuis ce temps-là. Les deux Michael ont été libérés, la vice-présidente de Huawei également, mais ça n'a pas voulu dire qu'il y avait un réchauffement. Ce que les Chinois ont vu, c'est qu'avec l'élection de Mark Carney, ils voient que le discours est différent. Ils voient que Mark Carney n'est pas un premier ministre de gauche, que c'est un premier ministre plus économique qu'identitaire ou que sur les principes. Et les Chinois sont ouverts à réentamer des discussions. La preuve, c'est cette visite-là. Maintenant, avant de se marier ou d'avoir l'expérience de quelque chose de plus solide, il faut commencer à se fréquenter. La visite de Mark Carney à ce moment-ci, c'est simplement ça, une première étape. Une première date avec le président chinois pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Est-ce qu'il pourrait avoir certaines ouvertures? Je pense qu'il pourrait avoir des ouvertures à des analyses. Mais moi, ce que je m'attends, c'est qu'on se dise qu'on veut travailler ensemble et qu'on s'engage à se revoir bientôt. On laissera à ce moment-là travailler les fonctionnaires puis les équipes pour arriver avec un plan concret dans un délai peut-être de 6 mois à 1 an.
Je te pose une question par rapport à la visite de Mark Carney en Chine, Victor, qui va concerner les États-Unis et Donald Trump. On en a parlé énormément la semaine dernière du fameux Donro, donc le fait que Donald Trump veut reprendre la mainmise sur l'Amérique. Est-ce que sa politique tarifaire va complètement à l'encontre du Donro? Et je m'explique. Sa politique tarifaire fait en sorte présentement que Mark Carney fait plus d'affaires avec l'Europe, la Chine, et là va aller au Qatar. Donc, ça va complètement à l'encontre de ce que Donald Trump veut dans sa politique de sécurité publique.
Oui, c'est vrai que la théorie d'Onwo, c'est je veux contrôler mon continent. Donc, en principe, on se dit, si tu veux contrôler ton continent, tu dois aussi lui donner les privilèges pour qu'il ne veuille commercer qu'avec toi.
Mais en plein ça.
Mais ce serait la logique. Mais la logique de chez Donald Trump, c'est tout autre chose. Et la logique de Donald Trump, c'est de dire non seulement je veux qu'il se maintienne de mon bord, mais je vais le faire par la force ou par l'influence de la force ou par la peur, plutôt que de le faire par des relations commerciales extrêmement harmonieuses. Maintenant, il y a une chose, Donald Trump est conscient, et c'est une des raisons pour lesquelles il est intervenu au Venezuela, l'influence chinoise sur le continent américain, elle a énormément grandi, notamment en Amérique latine. On sait, par exemple, que les véhicules chinois sont très vendus dans l'Amérique du Sud. Et il sait aussi qu'avec le Mexique, les relations se réchauffent. Donc, ce réchauffement avec le Canada ne lui plaira pas. Mais c'est important que le Canada garde cette porte ouverte. Maintenant, c'est pour ça aussi que je ne m'attends pas à des grandes annonces, parce que je ne pense pas que Mark Carney ait l'intention d'utiliser la Chine pour remplacer les États-Unis. D'ailleurs, la réalité, c'est qu'en termes commerciaux, c'est quasiment impossible. On ne peut pas comparer. Oui, le marché chinois est très grand, mais la distance avec la Chine versus la distance avec les États-Unis est tellement différente qu'on ne peut pas comparer.
Ben, c'est ça, je suis à penser à l'industrie du camionnage où on transporte énormément de produits de part et d'autre de la frontière. C'est une impossibilité avec la Chine.
Ben, c'est exactement ça. Alors, c'est pour ça que je pense que, oui, c'est intéressant. Mark Carney s'en va là-bas en faisant quoi? Ce qu'il veut aller montrer, c'est que les discussions avec la Chine sont sérieuses et qu'on a l'intention de travailler avec eux comme on travaille avec les Européens. Mais ce qui serait important, c'est que le président Trump ne voit pas ça comme une tentative de la Chine de venir rentrer sur le marché nord-américain. Et ça, c'est ce que les Chinois visent. Il ne faut pas se tromper non plus. Le marché canadien est très intéressant, mais le marché canadien est une porte d'entrée et rien d'autre. Alors, on se rappelle, on a un marché de 40 millions d'habitants. Ce n'est pas un marché énorme sur la planète, notamment pour les Chinois. Alors, l'intérêt de la Chine d'ouvrir la discussion avec le Canada, c'est justement de réchauffer cette relation avec le continent américain. L'intérêt de Mark Carney, c'est de garder une porte ouverte, mais pas de se mettre Donald Trump à dos. C'est pour ça qu'on sera prudent du côté canadien dans les déclarations. Et vous savez, Mark Carney est quand même reconnu pour ne pas être le plus flamboyant des politiciens. Ça lui sera très utile dans les prochains jours.
T'as tellement raison. Puis c'est une force de Mark Carney, faut l'avouer. Parlant de force, Charles Milliard est en train de regrouper les forces libérales au Québec. Un 10e député avec Frédéric Brochemin qui se range dans ses rangs. Et là, Mario Roy est censé faire une annonce qui se lance dans la course à 13h30, mais Victor, ça va être de la poudre aux yeux, l'annonce de Mario Roy, parce que c'est un couronnement. On s'en va vers là. Le Parti libéral veut Charles Milliard.
Alors, si la tendance se maintient, je vous annonce en primeur que Charles Milliard sera chef du Parti libéral du Québec.
Wow! Tu es un grand devin, Victor Henriquez!
C'est extraordinaire. C'est l'annonce la plus facile à faire de l'année 2026. Mais au-delà de la joke, c'est vrai que Charles Millard a rallié les forces. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que cette espèce de départ lancé, le fait que Charles Millard avait déjà une organisation qui avait fait un leadership il y a 6 mois, le fait qu'il avait perdu aussi par une marche très courte, ça a convaincu les libéraux qu'il n'avait pas de temps à perdre. Mario Roy est en train de jouer à un jeu que je trouve intéressant, mais que je trouve risqué. Mario Roy n'a absolument rien à perdre que d'annoncer qu'il sera candidat et de faire un point de presse à 13h30. D'ailleurs, la réalité, c'est que bravo, en termes de notoriété, ça lui permet d'exister. Parce que Mario Roy était un pur inconnu à la dernière campagne, à la dernière course à la chefferie chez les libéraux, sera un peu moins pur inconnu après celle-ci. Mais il ne faut pas se tromper, par exemple. Mario Roy n'est pas un candidat qui peut faire une course crédible contre Charles Millard. Il a encore une dette d'environ 18 000 $ de sa dernière course et il devra avancer des montants d'argent importants parce que le candidat devrait déposer 30 000 $ dans ce cas-ci. Alors, je pense que Mario Roy, selon moi, va jouer le bluff pendant un certain temps, mais je suis convaincu que soit il va finir par se rallier, soit le parti va peut-être même refuser sa candidature parce que c'est indiqué dans les règles qu'un candidat ne peut pas avoir une dette existante de la dernière campagne à la chefferie. Et si Mario Roy n'arrive pas à rembourser le 18 000 $ de dette avec des dons de 500 $ maximum, rappelons-le, ben, il serait impossible pour lui d'être candidat à cette chefferie-ci. Donc, je pense qu'il joue un jeu intéressant parce qu'il se fait connaître. Mais attention à ne pas étirer l'élastique jusqu'au point qu'il brise, parce que ça pourrait faire mal à un Mario Roy qui a un potentiel d'être un candidat libéral à la prochaine élection, notamment dans sa région de la Beauce.
Oui, puis s'il étire trop d'élastique, comme tu as dit, il y a le risque aussi de, oui, se faire connaître, mais se faire connaître en tant que personnage pas du tout crédible au final. J'aimerais. Ben, vas-y.
Non, mais c'est exactement ça. Puis c'est là où est-ce que j'ai hâte de l'entendre à 13h30 parce qu'on ne l'a pas entendu jusqu'à maintenant. Et ce que je veux entendre, c'est un homme équilibré qui va justement ne pas essayer de nous faire croire que c'est la solution de l'avenir, mais peut-être nous dire qu'il a des choses à dire dans ce leadership-là puis qu'il aimerait pouvoir les exprimer. À ce moment-là, je pense qu'il faut avoir de l'ouverture.
Est-ce que, selon toi, une fois que Charles Millard va avoir gagné, il y a une chance que Charles Millard fasse un peu, pas exactement, là, mais est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi à faire avec le PQ? Ce que je veux dire, c'est prendre un parti présentement qui est en crise, puis le relever comme redonner la crédibilité que le Parti libéral a perdu avec la saga Pablo Rodriguez et vraiment peut-être réussir à aller challenger Paul Saint-Pierre Plamondon aux prochaines élections.
Je pense que les circonstances sont extrêmement favorables à Charles Millard pour réussir à faire quelque chose comme ça, puis je vais vous expliquer pourquoi. Au-delà de la partisanerie, puis la marque libérale qui, avouons-le, est quand même très, 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 très affectée de façon négative, la réalité, elle est assez simple. On a du côté du Parti québécois une promesse de référendum qui amène les fédéralistes à devoir absolument se prononcer, et on sait qu'au Québec, on a encore cette division entre souverainistes et fédéralistes. Alors, le terrain de jeu des libéraux est extrêmement intéressant. On a aussi une situation commerciale avec les États-Unis qui est particulière. On a une transformation de l'économie qui est intéressante pour les libéraux parce que, historiquement, il faut se le rappeler, les libéraux remportent leurs élections sur l'économie. Ça, c'est une réalité que l'histoire nous a appris. Alors, Charles Millard a un terrain de jeu extrêmement intéressant pour son parti parce qu'il est dans des zones qui lui sont confortables. Comme ancien président de la Fédération des chambres de commerce du Québec, il connaît l'économie, il a parlé d'économie toute sa carrière. En tant que chef libéral, il est le représentant du fédéralisme et il aura donc à avoir une vision fédéraliste qui lui permettra de se faire connaître. Et le fait qu'il n'a pas d'expérience politique lui permet de naturellement s'éloigner de cette perception négative de l'éthique libérale, puisqu'il pourra se décrire ou se présenter comme quelqu'un qui incarne une nouvelle éthique libérale, une nouvelle façon de faire de la politique. Il devra bien entendu pas seulement le dire, mais aussi le représenter. Puis c'est là-dessus, on verra ce qu'il fait dans les prochains mois. Mais il a un potentiel de développement parce que la première place du PQ lui donne cet espace de développement. C'est une opportunité unique pour les libéraux et qui n'existerait pas, par exemple, si la CAQ était première dans les sondages.
En effet, t'as entièrement raison. Cette fameuse guerre souverainiste-fédéraliste va permettre justement aux libéraux, je pense, de regagner en force. Et si Charles Millard devient un être crédible au niveau économique, c'est clair que les libéraux vont reprendre du plancher sur la sphère politique.
Il y a un truc qui est super important parce que la dernière élection fédérale nous a appris quelque chose de bien important hein, là-dessus. Vous rappelez-vous comment Pierre Poilievre surfait sur une vague absolument unique. Mm-hmm. Et ce qui est arrivé, c'est que quand Mark Carney est arrivé, Pierre Poilievre a essayé de faire égal à égal sur le sujet économique avec l'ancien gouverneur de la Banque du Canada. Puis moi, je suis convaincu que c'est là-dessus sa plus grande erreur. Si Pierre Poilievre avait mis en face de Mark Carney un économiste conservateur crédible, je pense qu'il aurait réussi à maintenir des chiffres suffisamment intéressants pour remporter une élection ne serait-ce que minoritaire. Pourquoi je parle de ça? Parce que Paul Saint-Pierre Plamondon a exactement le même défi devant lui.
En effet.
Il aura face à lui une personnalité économique. Maintenant, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est parler de chiffres. Ce n'est pas la même chose, nécessairement, que Pierre Poilievre là-dessus. Mais le fait de recruter une équipe de gens de qualité, le fait de ne pas penser que sa popularité personnelle sera suffisante pour gagner une élection, sera la meilleure façon de protéger le PQ d'une baisse potentielle. Parce que Charles Millard, de son côté, aura également le défi de recruter une équipe de grande qualité. En ce moment, il est très peu connu par le public, mais il aura l'occasion de se faire connaître. Cependant, il se fera connaître aussi en rebondissant sur la notoriété de ses futurs candidats et de gens qui ont une crédibilité et qui vont lui permettre de créer un narratif économique qui soit intéressant pour les Québécois. C'est là où est-ce que la bataille pourrait devenir intéressante. Et c'est là où Paul Saint-Pierre-Plamondon se doit absolument de ne pas commettre les erreurs de son collègue conservateur fédéral.
C'est une très belle analyse, Victor Henriquez. On termine le caucus qui est disponible du lundi au jeudi, normalement avec Antonine Iaccarini, mais aujourd'hui avec Victor Henriquez. Victor, comment tu analyses la situation en Iran? 2000 morts, ça n'a pas de sens ce qui se passe.
Ça n'a pas de sens ce qui se passe, puis c'est horrible de voir 2000 morts, mais pour les gens qui suivent ça un peu de loin, je vous annonce à rapprocher un peu votre lunette de ce qui se passe en Iran, parce que ça commence à ressembler pas mal à une grande révolution. Et on est peut-être en train de vivre l'histoire ici. Puis j'amenais des comparatifs cette semaine en discutant avec des amis et des collègues. Il y a un comparatif intéressant, Venezuela-Iran, parce qu'on voit l'intérêt pour le pétrole de Donald Trump. On voit cet intérêt de sortir un peu, de couper les marchés de la Chine pour le pétrole. Mm-hmm. Cependant, il y a une différence importante en Iran, c'est qu'en Iran, la population est en train de se soulever en ce moment. Et il y a eu plusieurs révoltes en Iran, hein, 2019, des révoltes avant, et souvent c'était des révoltes de certains groupes, les groupes de femmes, les intellectuels, certains groupes religieux. Mais là, ce qu'on voit, c'est une révolte des commerçants, accompagnée de tous les autres groupes. Et il faut savoir qu'en Iran, c'est les commerçants qui ont amené la grande révolution islamique en 79. C'est eux qui ont propulsé l'ayatollah Khomeini à l'époque au pouvoir. Et c'est les mêmes aujourd'hui qui sont en train de se virer contre le régime islamique, parce que le régime a donné beaucoup trop de pouvoir aux gardiens de la révolution et parce que la question du coût de la vie est en train de tuer ces commerçants-là, qu'on appelle en Iran des bazaristes. Hein. Ces gens dans les bazars, imaginez un peu ces grands bazars qu'on connaît, par exemple dans ceux qu'on peut voir dans d'autres pays. Alors, il est en train de se passer quelque chose d'absolument phénoménal, c'est que la population en ce moment, elle se rebelle et elle n'a pas peur de la mort. Vous savez, pour faire une révolution, il faut avoir peur. Il faut pas avoir peur de mourir pour sa révolution. Moi, j'ai un père qui m'a raconté ça parce que lui, il a lutté contre une dictature. Des fois, je lui demande, je dis, hey, Pac, comment ça se fait que d'aller au front comme ça face à des militaires? Et il dit, à un moment donné, tes principes deviennent plus importants que tout, puis t'oublies cette peur-là.
C'est fou, les principes deviennent plus importants que notre propre vie. Est-ce qu'on va réussir à instaurer un régime démocratique en Iran? Parce que je suis toujours déçu de ces grands coups d'État-là ou de ces grandes révolutions-là. Et je m'explique, parce qu'on dirait qu'après ça, c'est l'Occident qui vient placer son pion, puis on redevient dans un système autoritaire, dictatorial, parce que le nouveau dictateur, lui, il fait du commerce avec l'Occident.
C'est exactement ça. Puis là, c'est la question après ça, c'est qui on met en place, de qui on a besoin pour se relever et qui nous aide à nous relever. Ça va déterminer l'avenir. Mais la transition vers une démocratie, c'est une très longue transition. Elle prend beaucoup de temps, elle prend des changements. La démocratie, c'est pas un truc qui existe du jour au lendemain. Mm-hmm. Ici, en Amérique du Nord, on a tendance à prendre un peu pour acquis. Des fois, on se dit, hey, la démocratie, on installe ça. Non, ça s'installe pas. Ça se développe, ça se crée, ça prend du temps. Mais il y a un chemin vers la démocratie, c'est celui de la révolution. Et honnêtement, ce qui est en train de se passer en Iran, ça commence à ressembler pas mal à tous les ingrédients d'une grande révolution. Et je trouve ça toujours un peu émouvant parce que, imaginez, hein, des gens comme vous et moi qui se lèvent le matin et qui disent, vous savez quoi, j'en ai tellement assez que même s'il faut que je prenne une balle, je vais aller au-devant du front. Moi, ça me donne des frissons, puis je trouve ça bravo aux gens en Iran, et je pense aux familles perses, aux familles iraniennes qui sont ici, qui sont un peu partout, et qui voient leur famille là-bas. Courage au peuple iranien, parce qu'ils essayent de faire quelque chose d'extraordinaire pour leur bien à eux.
Ah oui, courage au peuple iranien, certainement, parce qu'on tente d'avoir une vie meilleure là-bas, dictée par des principes de liberté, et non pas dictée par une personne au-dessus de la pyramide. Victor Henriquez, c'est toujours un plaisir de te parler. On se reparle prochainement.
Merci, à bientôt.
Yann. Merci pour ce caucus. Salut, Victor. Victor Henriquez, que vous pouvez entendre de plus en plus sur nos ondes, il a remplacé Antonin Iaccarini durant ses vacances. Il était là aujourd'hui, justement, en remplacement d'Antonin Iaccarini dans le caucus. Je le rappelle, le caucus avec Antonin Iaccarini, c'est du lundi au jeudi, à compter de midi. Et c'est une belle petite demi-heure où on fait le survol et surtout l'analyse complète de tous les gros sujets d'actualité. Mathias, il y a quelque chose qui se passe dans la circulation.
Oui, juste vous dire que présentement, la sortie 15 sur Charest, donc celle au niveau d'avenue Dalton, est présentement fermée. On a un texto qui dirait que c'est peut-être un camion qui est renversé. Si vous avez des informations, ça se passe par texto, 88-971-1021.
Deux entrevues fort intéressantes après la pause à Boulevard 102.1. D'abord, Marie Langlois sera au bout du fil. C'est la directrice générale de la SDC Montcalm. Les commerçants ont vu la rue se creuser pour le tramway cette semaine, mais ils ont fait « OK, à ta minute, on était censé être avertis beaucoup plus à l'avance. » Donc, on va parler de ceci avec Marie Langlois. Et Ginny Boutet, infirmière au CHU de Québec en pédiatrie, va venir nous voir. On continue à faire la suite sur l'absentéisme des infirmières, du personnel infirmier. On le sait, hier, on a appris que c'était 4500 infirmières et infirmiers qui sont absents au travail. Ginny va nous parler de la réalité sur le terrain qui, Mathias, ça ne te surprendra pas, n'est pas très, très rose à l'heure actuelle.
Oh mon Dieu, je m'y attendais pas.
Malgré l'arrivée de Santé Québec il y a de cela un an, les grands sauveurs.
On attend que Santé Québec arrange un seul problème.
Ouais, c'est ça. On fait une courte pause à Boulevard 102 à l'émission d'En Jase et on revient avec ces deux entrevues pour vous. Restez avec nous. Émission d'En Jase, ton émission de midi à 14h sur les ondes de Boulevard 102.1. Suis dans la programmation le retour de Gravel avec Denis, Audrey et Véro. Et soyez à l'écoute, 15h30. Un collaborateur de l'émission d'En Jase, Mathias Turcotte, et de Boulevard 102.1. Farnell Morisset sera là. Il va tisser l'histoire du Groenland. Y a-tu pas quelqu'un de meilleur que Farnell Morisset pour parler de l'histoire géopolitique d'un endroit comme le Groenland?
Puis ça brasse tellement. Encore aujourd'hui, là, il va y avoir une rencontre entre les dirigeants du Danemark et du Groenland. En fait, c'est demain qu'ils vont rencontrer le vice-président américain J.D. Vance. Donc, c'est un dossier qui brasse énormément. Donc, c'est sûr, ça va être extrêmement intéressant.
Énorme dossier d'actualité que celui du Groenland, la relation entre les États-Unis, le Danemark et l'OTAN. Donc, manquez pas ça, 15h30, Farnell Morisset en onde dans Gravel, le retour. Et par la suite, c'est Marceau le soir qui se fait à 18h. On recommence la programmation le lendemain matin, 6h. Marceau le matin avec Yannick Marceau, Jeff Fortin et Max Larouche. Et ensuite, le point de max de 10h à midi avec Maxime Larouche. À la météo, c'est 0 degré. On parle de faible neige pour aujourd'hui, mais il n'y a pas de précipitation pour le moment. 3 degrés pluie intermittente pour demain. Donc, on va parler là, d'accumulations qui peuvent aller. Là, on dit pluie intermittente, mais ça va quand même être la faible pluie. Là. On parle de 2 mm de pluie et moins 1 degré neige. Pour jeudi, Mathias, des précisions sur ce qui se passe présentement à la circulation?
Oui, Charest en direction est. Présentement, c'est la sortie 15 qui est fermée. On nous dit que c'est un camion qui est renversé directement dans la sortie. Donc, léger ralentissement à prévoir dans le secteur. Là. C'est au niveau d'avenue Dalton. Si vous avez plus d'infos, 88-971-1021.
Demeurez à l'écoute de Boulevard 101 parce que vous allez pouvoir gagner des billets pour le match des Remparts Boulevard ce vendredi 16 janvier. Les Remparts reçoivent le Drakkar de Baie-Comeau. Et également, procurez-vous vos billets sur ticketmaster.ca. Je vous rappelle que c'est les deux frères, une commandite de Pepsi, qui seront en prestation musicale après la rencontre dans le hall principal. Plusieurs animateurs de Boulevard vont être là. Moi, personnellement, mon tournoi de hockey a changé d'horaire. Donc, avec mon Edouard, je devrais être capable d'être au match finalement au Centre Vidéotron ce vendredi. Donc, si je suis là, n'hésitez jamais à venir me parler, à me serrer la pince. J'adore jaser avec vous, chers auditeurs. Le tramway Mathias fera toujours parler jusqu'à temps qu'il soit sur ses rails. Et là, bien, c'est les travaux qui commencent. On a accéléré les travaux préparatoires. Et à présent, dans le quartier Montcalm, il y a des dérangements qui se font pour les commerçants. Et c'est pour cette raison qu'on va aller parler avec Marie Langlois, directrice générale de la SDC Montcalm. Madame Langlois, merci beaucoup pour votre disponibilité pour l'émission d'Angers ce midi.
Ça me fait plaisir.
Madame Langlois, est-ce qu'on a mal communiqué l'arrivée de ces travaux-là du côté de la Ville de Québec, malgré le fait qu'on a un responsable du dossier, Jean-Luc Lavoie, qui est censé veiller aux relations avec les commerçants?
Pour l'instant, toutes les informations viennent de CDPQ Infra ou du bureau de projet directement. Ils nous ont quand même rencontrés juste avant les fêtes pour nous parler justement de ces travaux-là qui ont lieu janvier-février jusqu'au 20 février. Et puis, ils nous ont donné l'information pour qu'on puisse avertir nos membres juste avant janvier, là, juste avant les fêtes. Là. Fait que donc, ça, nous, on n'avait pas été mis au courant avant. Et puis, on leur a demandé d'avoir un petit peu plus de prévisibilité. C'est-à-dire que, présentement, on sait qu'on en a jusqu'au 20 février. On sait que pour la prochaine année, dans les travaux préparatoires, parce qu'on est juste dans les travaux préparatoires, on va avoir des travaux probablement toute l'année. Mais on n'en sait pas plus. Ce qui crée de l'incertitude, parce que des entrepreneurs, là, faut que ça aille de la prévisibilité, faut qu'ils sachent. Peu importe ce qui s'en vient, faut le savoir. Fait que donc, que la rue soit complètement fermée, que ça soit sens unique, peu importe, faut être mis au courant puis rapidement, puis le plus loin possible.
Oui, parce qu'il faut informer notre clientèle, faut se préparer des plans de mitigation, justement, pour faire en sorte qu'on continue à accueillir du monde quand même, qu'on perde pas trop d'argent.
Bien, c'est ça, parce qu'il faut toujours penser que ça reste ouvert, ça circule, là, il faut le dire, là, aux auditeurs, ça circule dans mon camp. On est habitué dans la Ville de Québec, là, un peu partout depuis plusieurs années. Quand on se promène, on arrive, des travaux à telle place, je dois aller me stationner ailleurs. C'est la même chose pour mon camp présentement. Mais ça circule. Puis nos commerçants sont tous là, c'est tous ouvert, puis on peut avoir accès. Les livraisons se font, l'entrepreneur qui s'occupe des travaux voit à ce que les livraisons se fassent. Voir à régler sur le champ les petits problèmes qu'ils rencontrent, là, soit un employé qui est pas capable d'aller se stationner, des choses comme ça. Ils sont quand même sur place pour aider les commerçants. Par contre, mes commerçants, ils voient pas plus loin que le 20 février. On sait que, il y a des activités pendant l'hiver. On nous a rassurés par rapport au carnaval. Il y aura pas du tout de travaux dans mon camp pour le carnaval, donc on va pouvoir accueillir les gens sans travaux, sans détours. Et puis, mais après ça, on ne sait pas. Puis ça crée aussi pour la SDC. Puis on les a rencontrés encore hier, puis on le dit exactement le même discours que je vous fais là, c'est que moi je prévois mon année événement. Pour 2026, je suis en train de démonter. Je suis en train de signer des contrats avec des artistes, comme pour mon Camp Blues. Est-ce que je vais pouvoir le faire, mon Camp Blues, ou est-ce qu'il va y avoir des travaux? S'il y a des travaux, on ne peut pas remettre. Puis quand on remet, on a des pénalités. Et si on annule, on a d'autres pénalités aussi. Fait que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de tracas. Moi, je me sens figée présentement.
Bien, vous n'avez pas le choix de connaître la situation dans les prochains mois pour prévoir. De ce que je comprends, la majorité de vos communications, ça a été avec CDPQ Infra. Est-ce que vous avez parlé avec la Ville de Québec et plus notamment Jean-Luc Lavoie qui s'est vu attribuer justement d'entretenir la relation avec les commerçants tout au long des travaux du tramway? Est-ce que vous avez discuté avec lui?
Non, moi, j'ai pas eu de nouvelles encore de lui. J'ai vraiment eu des nouvelles du bureau de projet et CDPQ Infra. Pour les communications. Mais non, présentement, on n'a pas eu de nouvelles encore. J'imagine que... Puis je pense pas qu'il aille rencontrer mes commerçants non plus. J'en aurais entendu parler. Donc, présentement, on n'a pas eu de nouvelles.
Craignez-vous des fermetures possibles parce qu'on est au balbutiement de ces travaux-là? C'est les premiers travaux. Craignez-vous qu'il y ait des commerçants qui vont dire « Hey, là, ça n'aura pas d'allure. Je vais être pogné là-dedans pendant 4, 5, 6 ans. Je sacre mon camp du quartier Montcalm? »
Oui. Malheureusement, oui. Il y a des gens, il y a des commerçants qui ont commencé à nous en parler, nous dire « Écoute, moi, je renouvelle mon bail. Qu'est-ce que je fais? » Parce que quand il y a de la prévisibilité, là, peu importe les travaux, peu importe les défis, on le sait, qu'est-ce qui s'en vient, on s'ajuste. C'est ça, un entrepreneur aussi. Hein. Mm-hmm. Fait que, puis même pour la SDC, c'est la même chose. Si je sais, je suis capable de m'ajuster. Puis faire avec ce qui m'arrive. Là, présentement, on ne peut pas aller plus loin que le 20 février.
Donc, insécurisant. Ben oui, c'est insécurisant, ça n'a pas d'allure là, pour des entrepreneurs qui, rappelons-le, ont mis beaucoup de leur argent. Puis tiens, j'ai un nom en tête, là, je vais penser à la microbrasserie Griendel, moi que je visitais en Basseville à l'époque, qui s'est installée dans mon camp pour agrandir, pour avoir des plus beaux locaux, qui ont investi énormément d'argent, puis là, ils se retrouvent prisonniers d'un manque de communication. Ça n'a pas de sens pour des entrepreneurs comme ça. Là.
Non, c'est là la réaction. Quand on parle avec CDPQ Infra, ils ne peuvent pas nous donner plus loin que le 20 février. Les personnes attitrées aux communications avec qui on fait affaire, parce qu'ils disent que eux n'ont pas les dates. Et c'est que les futurs travaux, ils sont encore dans le processus pour octroyer à un entrepreneur. Fait que, vu que c'est pas terminé, tout ce processus-là, ils peuvent pas nous donner de date.
Okay.
Fait que c'est pas les communications ni du bureau de projet, ni de CDPQ Infra.
C'est la planification des travaux que je comprends qui est déficiente.
Bien, c'est donner les contrats pour les travaux, mm-hmm. parce que c'est pas toujours les mêmes entrepreneurs. Hein. Moi, j'en ai eu, Sofraiseur, juste avant les fêtes. Et là, je suis allée voir tout à l'heure, c'est pas du tout le même entrepreneur. Fait que ça change d'entrepreneur selon les travaux, selon ce qu'ils ont à faire. Fait que j'imagine que c'est là que ça bloque.
Oui, je comprends très bien.
C'est là que ça bloque. C'est là qu'on ne peut pas avancer. C'est là que nous autres, on dit, écoutez, il faut le savoir. Il faut avoir de la prévisibilité. Ils nous donnent ce qu'ils peuvent nous donner. Mais plus loin que ça, puis je les comprends là, au niveau des communications, de nous dire, on ne peut pas vous dire plus que ça. Je les comprends. Mm-hmm. Mais nous, il faut quand même faire notre travail. Puis faire des pressions. Parce qu'il y a le côté aussi, on n'a pas accès aux subventions quand il y a des travaux majeurs. Parce que un des critères, il faut que ces travaux-là durent 3 mois. Moi, mes travaux, ils durent du jour, 2 jours, puis ils changent de place.
Oui, mais au total tout, ça va durer plus que 3 mois. Donc, il faudrait vraiment que la Ville fasse quelque chose pour vous, là.
Oui. Là, on va faire des demandes, puis on va faire que les critères se peuvent... En tout cas, moi, je pense qu'ils peuvent modifier des critères pour donner à la zone, parce que c'est toute ma zone qui est impactée. Parce que quand ils bloquent, mettons, Salaberry, t'as beau me dire que j'ai pas beaucoup de commerce sur Salaberry, mais j'ai beaucoup de va-et-vient, il y a beaucoup de trafic. Fait que quand on bloque le trafic, on bloque l'accès aussi, on a moins de monde qui vient dans le quartier. Fait que tout est important. Fait que c'est pour ça que nous, en tout cas, on dit que ça serait important que nos commerçants aient au moins accès à ces subventions-là pour les soutenir, puis ce qu'ils vont faire, puis c'est pas des sommes énormes, OK? Il n'y a pas personne qui s'enrichit là-dessus, là.
C'est juste un moyen pour survivre. Madame Langlois, je vous fais une promesse. Oui. Mathias Turcotte, qui est notre nouvel employé, qui est sur le terrain, va au conseil de ville la semaine prochaine. Mathias, je te donne une mission. Tu vas aller questionner le maire Marchand sur ce qui se passe dans mon camp. Pourquoi Jean-Luc Lavoie n'a pas été en communication avec la SDC, les commerçants, puis surtout Boutillard, je vais le dire de même, qui leur donne don, un dédommagement, s'il vous plaît, à ces commerçants-là?
On va se le dire, il y a quelqu'un présentement dans le conseil de ville de Québec qui est littéralement attitré aux communications avec les commerçants. Cette personne-là ne fait pas de communication.
A pas fait sa job.
En lien avec les travaux du tramway, avec les commerçants. Il y a quelque chose qui fonctionne
pas. Marie Langlois, directrice générale SDC Montcalm, faites-moi signe s'il y a d'autres choses. Ça va nous faire plaisir de vous donner du temps d'antenne. On va livrer le combat avec vous auprès de la Ville de Québec.
Parfait, merci beaucoup. Au plaisir de vous voir dans mon camp.
Ben oui, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Mme Langlois. Hey, avec plaisir. Je vais venir encourager les commerçants dans cette période difficile, je vous le promets.
Parfait, merci beaucoup.
Merci, au revoir. C'est Marie Langlois, directrice générale SDC Montcalm. Boboy. Un gars aux communications qui fait pas les communications. On se cache derrière. Ouais, mais les travaux durent pas 3 mois, je vous donnerai pas de dédommagement. C'est parce qu'ils vont être en travaux pendant 6 ans.
Oui, puis le pire, c'est que les travaux durent même pas 3 mois. Eux autres, ils ont pas d'information complète vraiment sur ça dure combien de temps puis ça va comporter quoi. On essaye de planifier des activités, on n'est pas capable de faire. Puis encore une fois, toutes les communications se sont faites avec CDPQ Infra. On tient à le préciser.
Ben oui.
Puis il y a quelqu'un, puis je le redis, il y a quelqu'un à la Ville de Québec présentement que c'est son rôle.
C'est ça. Mais CDPQ Infra, là, ça ne gère pas les communications normalement avec les commerçants. T'sais, eux sont là pour que les travaux avancent selon l'échéancier, selon les budgets. Ceux qui gèrent les commerçants, c'est la Ville de Québec. Puis c'est pour ça que ce projet-là est en partenariat avec le gouvernement, avec CDPQ Infra, puis avec la Ville. C'est parce que chacun a ses responsabilités et la responsabilité de prendre soin des commerçants. C'est la Ville de Québec, c'est pas CDPQ Infra.
Puis là, ça commence pas bien, parce que je tiens à le préciser, les travaux viennent juste de commencer. Du côté de la Ville de Québec, on avait nommé les 2 personnes, un responsable des commerçants, un responsable des relations avec les citoyens, pour rassurer la population, ouais. Pour dire on va accompagner tout le monde au cours de ce processus-là. Ça commence pas bien, parce que non, bien non. Beau dire, on nomme des personnes-là. Si ces personnes-là, ben ils font pas leur travail... On n'est pas plus avancé.
Mathias, il faut questionner le maire de Québec là-dessus mardi prochain au conseil municipal. Puis je sais que tu le fais très bien, fait que je suis convaincu que tu vas le faire.
Le midi, on en jase.
Boulevard 101, l'émission on en jase. Bon, Mathias, on vient déchirer notre chemise sur le plan de communication de la Ville de Québec et d'accompagnement des commerçants dans Montcalm. Fait que là, on va parler de quelque chose de vraiment positif.
Oui.
La gestion de nos hôpitaux. Tu sais, ça va full bien. 4500 infirmières en arrêt de travail. Quand t'étais pas là la semaine passée, on a interviewé non. Le matin une personne du syndicat à Laval. Parce qu'à Laval, il y a eu une dame, malheureusement, qui est décédée directement à l'urgence. Puis là, il nous racontait que dans les hôpitaux à Laval, Santé Québec, ils ont créé un directeur de la fluidité.
Ah, OK.
C'est... OK, donc on n'a pas...
Puis lui, c'est quoi son rôle, directeur de la fluidité?
C'est de faire en sorte que ça aille plus vite, qu'il y ait okay. Moins de délais d'attente dans les urgences.
Bien sûr. Fait
que on n'a pas ajouté du monde sur le terrain, on a mis un directeur de la fluidité. Mais sais-tu quoi? Temps d'attente a augmenté de 18% depuis que le directeur de la fluidité.
Le pire, c'est que ce directeur de la fluidité-là gagne probablement plus cher que tout le monde
Il doit avoir le salaire de... pas mal certain de 3 personnels infirmiers sur le terrain.
Ben oui. Hey, on les a des solutions, hein?
On les a.
Plus de bureaucratie.
Le directeur de la fluidité. Pour parler de comment ça va, et malheureusement, ça va pas très bien dans nos hôpitaux, on a Jenny Boutet, une amie du show, infirmière au CHU de Québec. Jenny, comment vas-tu?
Ben, moi, ça va.
Ouais, c'est ça. Ça va mieux que le réseau?
Ben, je fais partie de ceux en arrêt de travail, fait que ça dépend.
Ouais, c'est ça, exactement. Jenny, il y a beaucoup, j'ai entendu ça parce qu'on en parle énormément à Boulevard, puis merci beaucoup justement de venir nous voir régulièrement en ondes. On parle beaucoup du travail pour le personnel infirmier, du stress qui est occasionné, de la surcharge de travail. Tu dois être fâché quand t'entends du monde dans les médias dire « Ben voyons, pourquoi ils chialent, il y a une augmentation de salaire? »
Oui, j'ai été... comme d'habitude, je me prépare un peu, là. Fait que j'ai écouté les nouvelles hier, puis j'ai regardé un peu les réseaux sociaux. Puis je suis obligée de dire que quand j'ai entendu, on comprend pas, ils ont eu une augmentation de salaire, il n'y a plus de temps supplémentaire obligatoire, là, ça...
OK, attends. Il n'y a plus de temps supplémentaire obligatoire? Mais crime, pourquoi vous chialez? D'abord, c'est pas vrai, ça, là, on s'entend.
Moi, honnêtement, puis c'est quand même un média de nouvelles qui est assez écouté, là, fait que je trouve ça un peu troublant qu'on parle de ça, puis qu'on dise ça comme ça, qu'il n'y a plus de temps supplémentaire obligatoire, parce que... Il y a du temps supplémentaire. C'est ce qui fait fonctionner le système, le temps supplémentaire obligatoire. C'est sûr que si tu joues avec les mots, parce que je peux expliquer, là...
Oui, vas-y, explique-nous ça.
Si on joue avec les mots, on peut dire que statistiquement, quand on regarde les chiffres, il n'y a pas de l'air à avoir temps supplémentaire obligatoire. La différence qui est arrivée, c'est que... on cédule notre temps supplémentaire pour avoir une vie. Fait que c'est du temps supplémentaire organisé. Ce qui veut dire, c'est que c'est, si une fille qui travaille de 4 heures à minuit, c'est son corps de travail normal, elle doit rester en temps supplémentaire parce qu'on a beaucoup d'ouvrages, de minuit, en théorie, jusqu'à 8 heures le matin. Ce qui fait un 16 heures qui est très, très long, surtout sur des unités ultra spécialisées où tu peux pas, faut pas que tu fasses d'erreurs. On n'a pas un travail que tu peux faire des erreurs. Fait que là, mais moi, je vais dire, ben écoute, moi, je vais rentrer à 5 heures du matin pour couper ton corps, pour que tu fasses juste jusqu'à 5 heures. Moi, je vais rentrer à 5 heures pour te libérer, pour que tu puisses aller dormir. Puis moi, je vais te rester de 5 heures le matin jusqu'à 4 heures le soir. Ça va être mon temps supplémentaire. Mais parce que j'ai dit je vais rentrer pour que tu puisses partir, ça compte pas dans le temps supplémentaire obligé. C'est considéré comme un temps supplémentaire volontaire. Sauf que ça, on fait ça 3-4 fois par semaine. C'est juste qu'on organise notre temps supplémentaire pour avoir une vie. Moi, je reçois des textos. Là, je suis un peu en arrêt de travail parce que je m'occupe de mon papa, mais je...
Oui, puis en passant, bon courage dans cette épreuve-là.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Je suis proche aidante. On est aidante toute notre vie. Oui, c'est ça. mais tu sais, 3-4 fois par jour, je reçois des textos pour me prévoir des temps supplémentaires pour la semaine, pour le mois. Fait que moi, quand je reçois un texto qui dit « Mardi prochain, Jenny, est-ce que tu veux faire un temps supplémentaire en 5-8 le matin ou en 16-20 le soir? » Bien, moi, je vais regarder mon horaire, je vais dire « OK, bien... » Tu sais, le mardi soir, j'avais un rendez-vous, j'ai un souper, fait que je vais rentrer à 5 heures le matin. Mais c'est juste parce que je m'organise pour avoir une vie. Mais on vit sur le temps supplémentaire. Puis lui, bien, il n'est pas considéré un temps supplémentaire obligatoire parce que je le prévois. Mais c'est 3-4 fois par semaine.
Mais je veux
fait que le système fonctionne avec du temps supplémentaire. C'est juste qu'il n'est pas obligatoire, entre guillemets, parce que statistiquement, sur le papier, il paraît pas de même.
Mais qu'il soit obligatoire ou pas, ça reste du temps supplémentaire. Quelqu'un qui travaille 40 heures ou 60 heures ou 80 heures, que ce soit par choix ou non, bien, il fait plus d'heures quand même, au final.
Ben absolument, c'est du temps supplémentaire pareil. C'est juste qu'à un moment donné, on s'est dit, OK, on n'a pas le choix d'en faire, on va essayer de s'organiser pour se donner une vie. Puis là, avec ce qui se passe présentement, ça va être encore pire, parce que La dernière fois qu'on s'était parlé, là, quand on négociait nos conventions collectives, là, on avait parlé des sur-spécialités, puis qu'ils ne pouvaient pas juste nous bouger comme des pions. Parce que, tu sais, moi, on sauve des vies sur mon département. Tu ne peux pas mettre n'importe qui, là. Puis, pour contourner ça, le gouvernement, qui est quand même assez brillant, pour contourner ça, parce que lui, il veut des pions à pouvoir bouger, bien, en janvier, sur mon département de sur-spécialités, il a affiché 2 postes. Okay? On aurait peut-être eu besoin de 10 postes. Mais afficher 24 postes d'équipe volante. Puis ça, les équipes volantes, c'est ses pions. Hein? C'est ceux qui veulent bouger. Mais moi, si sur notre département, ils nous envoient des équipes volantes, c'est des gens qui sont moins formés.
Oui, parce que rappelle-nous, toi, tu travailles auprès d'enfants qui naissent avec une grave problématique de santé.
Moi, je travaille avec les enfants critiques de 0 à 18 ans. Fait que tous les enfants qui manquent de se noyer, qui ont des accidents de VTT, qui ont des traumas crâniens, tous les enfants critiques, que leur vie est en danger, ma job, c'est d'aider à sauver leur vie. Puis le danger avec les équipes volantes, qui font plusieurs départements, c'est que c'est dur pour eux de devenir spécialistes, parce qu'au lieu d'être là tout le temps, ils sont là une fois de temps en temps. Fait que si moi, j'ai un patient qui est vraiment critique, OK, puis mon patient... il se détériore, puis il est en train de mourir. Puis que je demande la médication, là, il ne m'en faut pas dans 10 minutes. Là. J'ai pas le temps d'ouvrir l'ordinateur puis de checker. J'ai besoin de la médication, là. Mais que sur mon département, c'est des filles qui sont moins habituées. J'aurais pas le médicament rapidement.
Exactement. Fait qu'on a bien plus de risques d'échapper l'enfant puis de voir l'enfant décéder en raison qu'on décide de créer des équipes volantes au lieu de spécialiser des gens puis d'augmenter ton département.
Puis ça, ce que ça va faire des temps supplémentaires d'expertise. Fait que les filles, quand on va regarder, mettons, sur les 12 infirmières sur le plancher, s'il y en a la moitié qui sont moins expérimentées puis que les enfants sont vraiment... parce que nos enfants sont vraiment malades. Mais tu sais, des fois, on est 2 infirmières pour un patient parce qu'il est critiquement malade puis que sa vie, c'est minute par minute. Puis des fois, ils vont un peu mieux puis on a 2 patients pour une infirmière. Elle va pouvoir venir m'aider. Mais si on regarde sur le plancher, sur les 12 infirmières, puis qu'on a 6 expertes, puis 6 qui sont moins habitués, bien, ça se peut qu'on soit obligé de garder 2 experts de plus pour assurer la sécurité des patients qui sont critiquement malades. Fait que, en plus, à cause de l'affichage de postes d'équipe volante, ça va créer des temps supplémentaires d'expertise. Fait qu'on va peut-être avoir, on a besoin de 12 infirmières sur le plancher, mais on va en garder 14 parce que les gens en place, ils manquent d'expertise. Fait qu'on va garder des experts. Ça diminuera pas le temps supplémentaire.
Ça va juste l'augmenter. Exactement, ça va juste l'augmenter. Puis ce qui est drôle là-dedans, Mathias, écoute bien ça. Moi, j'ai travaillé au RTC, j'ai géré le département des plaintes, OK? Puis on s'entend, là, c'était pour remplir un formulaire de plainte. Puis je me suis rendu compte que ça pouvait pas être ma gang au service à la clientèle générale qui remplissait le formulaire. Ils remplissaient mal. Puis c'était pas de leur faute. Ils prenaient peut-être une plainte aux 2 semaines. Fait que comment tu veux faire le travail adéquatement? Fait que j'ai créé un département spécialisé de plaintes. Mais ça, là, c'était juste pour remplir un formulaire. Il n'y avait pas avis de personne en bout de ligne. Donc là, tu es en train de me dire que le gouvernement, lui, ce qu'il fait, c'est au lieu de créer son équipe spécialisée, il dit « Tout le monde dans le même bain, puis oh, yarm, on aura des erreurs. »
Oui. Puis tu sais, de pas faire reconnaître son expertise, à un moment donné, ça joue sur le moral aussi. Moi, ça
c'est
fait,
démobilisant.
Ça fait 20 ans que je me spécialise à sauver des enfants. Puis d'un jour, me faire dire par le gouvernement, ben ton expertise finalement est pas si importante que ça, c'est démoralisant. Puis tu sais, la passion puis le feu, c'est éventuellement on l'éteint parce que c'est ma passion, oui, mais à force de me faire dire que c'est pas si important, puis que n'importe qui peut me remplacer finalement, parce que c'est ce qu'on dit quand on affiche des postes équivalentes. Il y a des filles qui aiment ça, des postes équivalentes. Puis sérieusement, ça aide beaucoup les départements, mais pas les départements qui sont ultra spécialisés, qui ont besoin d'une formation supplémentaire. Fait que, tu sais, ça devient un peu minant pour les équipes, là. Fait que l'ambiance de travail, quand je suis partie en arrêt de travail, puis je le dis, là, je suis en arrêt de travail, oui, parce que je m'occupe de mon papa, mais aussi parce que le travail me minait. L'ambiance de travail est difficile, les filles sont fatiguées, les derniers Santé Québec les a brisés, ils ont égalisé l'ancienneté, les filles se sont dépassées d'ancienneté entre eux. Puis tu sais, quand tu travailles de soir pendant plusieurs années, puis que tu veux avoir une famille puis des enfants, la seule chose que tu as, c'est éventuellement penser que tu vas avoir un poste de jour ou un poste de nuit pour avoir une vie. Puis là, mais en affichant pas de poste, les filles sont prisonnières sur leur poste. Ils peuvent pas bouger. Même moi, ça fait 26 ans que je travaille dans le CHU. J'ai 26 ans d'expérience, bientôt 27, ou d'ancienneté, si on veut. J'ai un poste en 12 heures. Je vieillis. Si je voulais un poste en 8 heures, je peux même pas. Parce qu'ils n'en affichent pas. Ils affichent juste des postes d'équivalente. Fait qu'ils me forcent à aller travailler, à prendre mon expertise de 20 ans à sauver des enfants. Puis si je veux améliorer ma qualité de vie, je dois prendre un poste d'équivalente pour aller faire de l'adulte, ce que j'ai jamais fait parce qu'en 27 ans, j'ai toujours travaillé avec les enfants. Puis prendre cette expertise-là, puis aller la déposer ailleurs, ce département d'adultes, de chirurgie, de gériatrie, où ce n'est pas du tout mon expertise, puis faire un trou aux soins intensifs pédiatriques. Parce qu'éventuellement, il faut que tu choisisses ta vie. Fait que je trouve que c'est une drôle de façon de fonctionner. Fait que quand tu deviens prisonnière, puis que tu n'as pas de possibilité d'améliorer ton sort, tu t'en vas.
En effet, tu as entièrement raison.
La sortie ou l'exode d'infirmières présentement dans les unités, ben dans le public, puis moi, je peux juste parler surtout pour mon département, est plus grand que jamais été.
Jéline Boutet, infirmière au CHU de Québec, on se fait une promesse, on se reparle prochainement pour voir pour voir l'évolution du réseau. Bon, il y a le grand Manitou Christian Dubé qui a quitté. Est-ce qu'on va voir des changements? Est-ce qu'il y a des choses qui vont... On s'en va en année électorale. Il y a des partis politiques qui vont faire des promesses. Fait que je veux te garder comme experte avec les promesses des partis politiques. Tu me diras, ça a-tu du sens ou pas de sens?
Bien, on espère vraiment parce qu'honnêtement, le système est difficile.
Oui, vraiment. Ouais. Merci beaucoup. Bon courage. Bon courage dans ton rôle de proche aidante avec ton père. On est avec toi. Je t'envoie plein d'ondes positives.
Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir.
Après la pause, c'est Rémi Villemur, excellent chroniqueur à Boulevard 101, l'émission On en jase, excellent animateur au 99.5, qui va venir nous parler de Charles Milliard, sûrement un couronnement. Puis, c'est-tu éthique d'aller faire de la business avec la Chine? On parle de ça avec Rémi Villemur immédiatement après cette courte pause à l'émission On en jase.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Vous cherchez un logement à Québec ou Lévis? Logis Expert, c'est plus de...
Et en semaine, 100% talk.
Boulevard 102.1.
On en jase. Jusqu'à 14h, on en jase.
Émission Mangeur, c'est ton émission du midi, de midi à 14h avec Jeff Fortin, normalement Pascal CV, mais c'est Mathias Turcotte qui est avec nous. Exactement 13h13. Je vous rappelle, la météo, c'est 0 degré aujourd'hui, peut-être quelques flocons. 2 degrés de la pluie demain, on revient à moins 1 degré de la neige jeudi. Mathias, avant de passer à l'excellent Rémi Villemur du 99.5 Montréal, quelques manchettes d'actualité locale, s'il vous plaît, pour nos auditeurs.
Oui, juste vous rappeler que la sortie 15 sur Charest en direction est est toujours fermée, donc c'est à niveau d'avenue d'Alton. On parle d'un camion qui est renversé tout simplement dans la sortie. Si vous avez des informations, 418-971-1021. Un suspect âgé de 43 ans a été arrêté en lien avec la disparition d'une femme de 44 ans. On parle de la disparition de Susanna Roca Cruz. L'homme en question était un proche de la femme. On n'a pas précisé du côté du SPVQ quel lien nécessairement il entretenait avec la victime. Mais une chose est sûre, il a été arrêté pour voie de fait avec lésion. Parce que du côté de la police, il y a des raisons de croire que la victime a été blessée. Par contre, on n'a toujours pas retrouvé la femme en question. On dit du côté de la police que des accusations supplémentaires sur l'homme pourraient être ajoutées. Mais une chose est sûre, la situation commence à devenir de plus en plus inquiétante. La femme qui est disparue, qui a été aperçue pour la dernière fois dans Sainte-Foy vers 21h le 7 janvier dernier. Donc, ça va bientôt faire une semaine maintenant. Donald Trump, écoutez, les manifestations en Iran, ça continue de brasser. Puis Donald Trump a fait un message sur Truth Social qui a fait jaser beaucoup au cours des dernières heures. On parle d'un message dans lequel il dit il encourage les patriotes iraniens de continuer de manifester, de reprendre le contrôle des institutions où, et dans lequel il précise l'aide américaine est en route.
Mais comment cette aide-là va arriver, c'est la grande question.
Exactement. De quel type d'aide parle-t-on? Comment va-t-elle intervenir? Une chose est sûre, c'est que la situation en Iran continue de brasser. Puis de plus en plus, on a de ce que plusieurs nomment comme étant une potentielle révolution qui voit le jour. Et du côté de la SAAC, l'Autorité des marchés publics a dénoncé dans une décision de 51 pages plusieurs mauvaises pratiques de la Société de l'assurance automobile du Québec, notamment dans le dossier SAAC-LIC. On dit qu'il y a eu plusieurs manquements de la part de la SAAC dans la gestion contractuelle. Sans surprise, me dirait-on, mais une chose est sûre, ça met la table à la commission Galant qui risque de chambouler les choses.
C'est clair. On s'en va immédiatement rejoindre Rémi Villemur. Rémi Villemur, animateur du 99.5 Montréal, chroniqueur à Boulevard 102.1. Il a sa série de podcasts également avec un épisode avec Yasmine Albelfadel, Monsieur Villemur.
Ben oui, ça sort aujourd'hui. Puis ça, en passant, là, je vais juste préciser une affaire. Parce que pendant des années, quand j'entendais dire des gens... surtout des filles, que c'était plus difficile pour les filles d'être dans les médias parce qu'on recevait toutes sortes d'insultes puis des commentaires dégradants. Moi, je haussais toujours les sourcils mm-hmm. en me disant « ben voyons donc ». J'ai passé une bonne partie de mon temps des fêtes à supprimer des commentaires absolument dégradants parce que j'ai mis en ligne des extraits de cet épisode-là qui sort aujourd'hui.
Des extraits d'ailleurs que j'ai écoutés qui sont excellents. Une superbe conversation entre deux personnes. Et là, je vais te lancer des fleurs entre deux personnes qui analysent très bien la politique ici au Québec.
Ben, c'est gentil. Puis, tu sais, Yasmine est courageuse d'être venue me parler parce que les gens qui me suivent sont en majorité souverainistes ou alors nationalistes. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont disons, opposés au multiculturalisme, plus conservateurs que progressistes. Donc, Yasmine ne remplissait pas beaucoup de ces cases-là et elle a accepté de me rencontrer. Ça donne un super épisode qui est en ligne depuis ce matin sur YouTube.
Oui, et à tous les gens qui envoient ces commentaires-là sur les médias sociaux, des commentaires dégradants, des commentaires violents, je vous invite à écouter à la place l'intervenant ou l'intervenante qui n'a pas la même opinion de vous. Il y a plein de monde intelligent dans la vie qui vont apporter des côtés différents, qui vont sortir des idées que vous n'avez pas pensées de l'ombre, puis des fois, vont justement faire évoluer votre pensée. Donc, au lieu de vous braquer, soyez assez intelligent pour faire évoluer votre pensée. Je ne veux pas nécessairement dire partir d'être souverainiste puis devenir le fédéraliste, mais comprendre la réalité de l'autre au lieu de la dégrader.
Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait partie d'un des raccourcis mentaux qu'on utilise beaucoup, que tous les... Puis on le fait tout, que les humains utilisent quand... qu'il vient de temps de mettre en confrontation nos idéaux. De, au lieu de prendre les idées qu'une personne véhicule, on prend la personne puis on essaye de la dégrader, de la décrédibiliser, peu importe la manière, pour rendre ce qu'elle dit non crédible. Au lieu de ça, écoutez les propos puis remettez-vous vraiment en question.
T'as entièrement raison, Mathias. C'est très, très, très bien dit. Rémi Villemur, est-ce que c'est bon ou pas un couronnement pour Charles Milliard à la tête du Parti libéral du Québec?
Je ne pense pas que ce soit bon pour Charles Milliard. Je ne pense pas que ce soit bon pour le parti non plus. Et en passant, là, on essaie, parce que Mario Roy, normalement, dépose sa candidature aujourd'hui.
Normalement, dans 12 minutes, Mario Roy annonce qu'il se lance dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec.
Oui, puis je le reçois ce soir à mon émission 99.5. Puis, tu sais, Mario Roy, c'est pas un vrai candidat. À la dernière course, il est arrivé bon dernier. Je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le parti, qui croit à l'importance qu'il y ait un débat. Quelqu'un qui a des sous aussi, parce que ça coûte près de quelques dizaines de milliers de dollars.
C'est 30 000 dollars, évidemment.
Oui, et si je ne m'abuse, il ne s'est pas encore occupé de sa première dette. Mais bon, ça lui appartient, je lui poserai les questions ce soir. Mais c'est pas bon pour le parti qu'il n'y ait pas une vraie course. Et là, si Mario Roy se présente face à Charles Milliard, ce ne sera pas une vraie course. On voudra maquiller un couronnement, mais pas de façon très, très convaincante. Pourquoi c'est important une course? Parce que je rappelle quand même comment s'est déroulée la précédente course au Parti libéral du Québec. Charles Milliard est arrivé deuxième. Au deuxième tour, il a quand même chauffé Pablo Rodriguez. Pablo Rodriguez, c'était le trudeauisme, c'était un fédéralisme très multiculturaliste. C'était un discours pas très nationaliste non plus. Et pourtant, Charles Milliard, qui lui se présente comme étant l'héritier de Robert Bourassa, est arrivé deuxième et il l'a chauffé. Ça veut dire que le parti est divisé. Ça
clairement.
À l'intérieur du parti, il y a encore à peu près 50% plus 1 de gens qui préfèrent le fédéralisme à la Pablo Rodriguez.
Oui, Rémi, corrige-moi si je me trompe, et on le voit encore plus que le parti est divisé, parce que quand Charles Milliard et je me présente, et là, l'organisation de Pablo Rodriguez. OK, Yves Desjardins, Siciliano, ça te tente-tu? OK, Guy Cormier, ça te tente-tu? Ah ouais, Carl Blackburn, t'es sûr que tu y retournes pas? On a cherché quelqu'un pour combattre Charles Milliard, parce que il y a 52% du Parti libéral du Québec qui, à la dernière course à la chefferie, nous a dit « Votre nationalisme, on n'en veut pas ».
Oui, puis il faut lire la chronique d'Antoine Robitaille dans le Journal de Québec ce matin, là, parce qu'il est allé regarder le profil des gens qui ont fait des dons à la première campagne à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec de Charles Milliard. Et Charles Milliard, qui se dit pas complètement mal à l'aise avec la loi 96, il se dit seulement à l'aise avec quelques-uns des articles de cette loi-là. Charles Milliard qui nous parle de l'importance de protéger le français, qui nous parle de l'importance de rappeler l'héritage de Robert Bourassa, a reçu de l'argent de gens qui ont pris position de façon féroce face à la loi 96, mais pas juste la loi 96, la loi 101, des gens qui ont travaillé pour Alliance Québec, l'un des groupes de lobbying les plus féroces et les plus voraces dans l'histoire du Québec face à la loi 101. Donc, à l'intérieur de l'équipe de Charles Milliard, il y a quelque chose comme une contradiction. Ça lui prendrait un contradicteur, quelqu'un qui incarnerait mieux. Non, mais une vraie pensée qui existe à l'intérieur du Parti libéral, parce que sinon, quel message ça va lancer? Ben, que les gens se sont ralliés derrière Charles Milliard, mais de façon opportuniste, de façon strictement utilitaire, que dans le fond, ils pilent sur leurs propres principes. Ah, des gens qui pilent sur leurs principes au Parti libéral du Québec, on a
ça se peut pas. Ça se peut pas, voyons donc, Mathias.
Surtout pas au Parti libéral. En politique, j'ai jamais vu ça, quelqu'un qui pile sur ses idéaux. C'est du jamais vu. Non, mais autre qu'en dehors de la base solide et du parti même, du Parti libéral. Là, on dit multiculturaliste, ça a été prôné par Pablo Rodriguez. Il y a encore 52% du parti qui le supporte. Par contre, d'avoir un Charles Milliard qui est peut-être un peu plus nationaliste, est-ce que ça donne une chance au Parti libéral d'aller rejoindre un peu plus une base francophone, ce qui était le défi du parti au cours des dernières années?
Bien, ça, c'est si à la CAQ, on ne saisit pas l'opportunité de faire ce travail-là. Parce qu'il faut rappeler quand même dans quel contexte le Parti libéral du Québec a perdu à peu près tous ses appuis chez les francophones. C'est lorsque la CAQ a dit « Bien, nous, on n'est pas fédéraliste. Hein? » Sauf que nous, on protège le français. Il y a des francophones qui sont fédéralistes, qui aiment protéger le français. Ils sont même majoritaires au Québec. Donc, si la CAQ décide de s'assumer mieux, et ça va peut-être se faire tout seul, hein, c'est-à-dire qu'il y a peut-être plein de gens à l'intérieur du caucus qui sont souverainistes, qui vont décider de s'en aller. Et le côté souverainiste de la CAQ, qui est déjà très discret, je rappelle quand même que pour une coalition, Il n'y a pas beaucoup de gens qui se disent souverainistes dans l'espace public. Hein? Jean-François Roberge, Mathieu Lacombe, Simon-Jolin Barrette, Bernard Drinville, on ne les entend pas beaucoup dire qu'ils sont souverainistes. Par contre, tous les fédéralistes de la CAQ, eux autres, ils ont le droit de dire ça. Mais si la CAQ saisit l'opportunité, le Parti libéral du Québec va se retrouver dans de beaux draps. Après, il y a aussi l'usure du pouvoir qui fait en sorte que, malgré la saisie de l'opportunité, la CAQ pourrait ne pas être capable d'assumer ce rôle-là. Mais c'est ça le problème avec le Parti libéral, c'est que on se rappelle, et avant le temps des fêtes, on le fait, et là, on est un petit peu à parler d'autre chose, mais ça va revenir. Le Parti libéral du Québec aussi a des squelettes dans son placard. Hein? Et les Québécois s'en rappellent. Tout ce qui s'est passé avec Pablo Rodriguez nous a rappelé que ce parti-là a des problèmes d'éthique.
Nous a rappelé un très mauvais film. Parlant d'éthique, Rémi Villemur, moi, j'ai un choc des valeurs à l'heure actuelle. Je suis pour le droit humain. Je suis pour aider nos personnes plus défavorisées. Je suis pour une société qui se respecte et qui se valorise. Et là, je vois Mark Carney débarquer en Chine pour tenter de tisser des liens économiques avec ce régime dictatorial. D'un autre côté, je me dis, ouais, au sud de la frontière, c'est pas bien ben mieux à l'heure actuelle. Donc, j'ai tendance à pardonner à Mark Carney. Est-ce que je devrais pardonner ça à Mark Carney ou je devrais tenir mon bout avec mes valeurs?
Ben, écoute, moi, je pense que ce n'est pas une question de valeur, là. C'est une question de réalisme politique. Vous rappelez-vous, il y a quelques mois, quand Donald Trump a eu l'idée que certains ont trouvé farfelue d'inviter Vladimir Poutine autour de la table de négociation dans le conflit ukrainien. Des gens qui ont dit « Ah, il se rapproche du régime de Poutine. Ah, il ose adresser la parole à un dictateur. Ben, » c'est-à-dire que Vladimir Poutine est au moins un des deux acteurs les plus importants de ce conflit-là. Ce n'était pas une mauvaise idée que de l'inviter à une table de négociation, comme ce n'est pas une mauvaise idée non plus, quand on est premier ministre du Canada, de rencontrer le deuxième homme le plus puissant du monde politique.
En effet.
Si ce n'est pas le premier, hein, soit dit en passant, parce que nos lunettes nous empêchent parfois de voir exactement ce qui se passe dans le monde. Moi, j'apprécie que notre premier ministre au Canada rencontre tout le monde sur la scène internationale, scène diplomatique, scène politique. Là, il s'en va à Davos. Après, là, on ne sait pas qui il va rencontrer là-bas, par contre. Hein. Je ne veux pas tomber dans les théories du complot, mais à Davos, toujours une chasse gardée, une rencontre un peu mystérieuse. Là, on ne sait pas qui il va rencontrer, puis ça, on trouve ça normal. Moi, je préfère savoir qui il rencontre, et je préfère savoir qu'il rencontre tout le monde. Ça ne l'engage pas à accréditer ce que fait le régime communiste chinois, hein, parce que je rappelle que c'est quand même le nom du parti, ça ne l'engage pas à dire ben, « on est derrière vous dans le dossier avec Taïwan ». Pas du tout. Il peut arriver là puis prendre ses distances. Je pense qu'il n'osera pas attaquer les politiques de Xi Jinping en Chine quand même. Ça fait quand même presque 10 ans que le Canada ne s'est pas rendu jusque-là. Mais ça s'appelle le réalisme politique. On a grandi dans un monde, surtout ma génération, là, je dirais, Jean-François.
Je suis trop vieux.
Non, mais on pensait... Moi, autour de moi, des jeunes de 20 à 30 ans là, qui me disent « c'est méchant, c'est brusque », en parlant parfois de comportement politique, « c'est pas gentil »,« ah, ça se fait pas ». Puis t'as envie de leur dire « mais avez-vous déjà lu un livre d'histoire ?» L'histoire est faite de puissants et de moins puissants. That's it, that's all. Okay? C'est aussi simple que ça. Et là, on a plein d'exemples dans le monde en ce moment. Le Venezuela, l'Iran, on dit « ah, le régime tire dans la foule ». Ben ouais. Ben ouais, le régime veut tenir en place. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose qu'il fasse ça, mais on ne peut pas se surprendre de voir de la force en politique comme on ne peut pas se surprendre que des gens se rencontrent, hein, discutent, dialoguent, essaient de trouver des compromis. Parce que j'ai une petite nouvelle pour vous. Si Mark Carney ne rencontre pas Xi Jinping, ben il n'y en aura pas de progrès. Il n'y en aura pas de possibilité que les relations changent entre les deux gouvernements. On est dans la case impossible.
Rémi Villemur, je disais d'entrée de jeu, il faut écouter les gens des fois qui n'ont pas la même opinion que vous et ouvrir vos horizons. Ben, merci, tu viens d'ouvrir mes horizons sur cette réalité politique. Je te remercie beaucoup. Et c'est pour ça que je t'apprécie comme chroniqueur à l'émission L'Angeance.
Merci, on se parle jeudi.
Yes, on se parle jeudi. Rémi Villemur, excellent animateur sur les ondes du 99.5 Montréal. Il anime une émission d'actualité de 18h à 19h. Vous pouvez également l'entendre le samedi matin 99.5 Montréal de 8h à 10h avec Jacinthe Varel et les chroniqueurs à l'émission On en jase à chaque mardi et jeudi aux alentours de 13h. C'est le fun de parler avec des gens qui pensent pas comme toi, mais qui t'ouvrent sur d'autres horizons.
Puis on le fait plus assez. En fait, la société en général le fait quasiment plus. Dès que quelqu'un a un discours différent de nous, on essaie de se braquer. on n'est plus nécessairement capable de dialoguer, puis je pense qu'il va falloir le faire de... va falloir recommencer à le faire,
oui,
au final.
Oui, vraiment.
C'est que, je veux dire, si tu as une opinion, puis que tu vas jamais écouter d'autres opinions, que tu parles jamais avec quelqu'un qui a une opinion différente de la tienne, ce n'est pas une opinion que t'as. C'est la simple information auquel tu as accès. Une opinion, ça se forge, puis ça se bâtit sur le long. Puis ça, la façon de le faire, c'est de la confronter, puis c'est de discuter avec des personnes qui ont une opinion différente de la tienne.
En effet, et c'est exactement ce qu'on vient de faire ici à Boulevard 102. Un, en passant, quand il parlait de gens nationalistes qui sont pas nécessairement souverainistes, qui cherchent un parti politique, puis il disait « la CAQ pourra prendre ce... » ce filon-là, ben, il parlait de moi.
Ouais, non, mais...
c'est carrément ça. Moi, je veux défendre le français, je veux défendre notre culture, je veux que le Québec ait son identité. Mais en même temps, je suis pas encore prêt à faire le pas vers la souveraineté.
Mais c'est pour ça que je dis qu'un Charles Médiard qui replacerait peut-être le Parti libéral un peu plus près des priorités actuelles des Québécois, vraiment plus proches du peuple, puis pas juste de l'île de Montréal, ben ça peut, pourrait être intéressant pour le parti de dire « Hey, on revient se positionner à ce qu'on était avant, un parti qui est capable de rejoindre tous les Québécois et pas juste les Montréalais. » Je veux dire, puis je pense que s'ils veulent vraiment aspirer au pouvoir, puis peut-être aller challenger Paul Saint-Pierre Plamondon, ben ça va être nécessaire de faire.
On va terminer l'émission en jase en sport et Mathias en deux temps. Premièrement, après la pause, on va regarder ce qui s'est passé dans l'actualité sportive hier. Victoire du Canadien 6-3 contre les Canucks de Vancouver. Et on va parler du match du Canadien contre les Capitals ce soir. Et par la suite, on va jaser avec Patrick Dom et Julie Hamel. Patrick Dom, directeur général du tournoi Pee-Wee de Québec. Julie Hamel, directrice générale à venir. Patrick Dom, la forme depuis l'an passé. Quel tournoi exceptionnel. Quelle chance on a à Québec d'avoir le tournoi Pee-Wee. On va parler avec ces deux personnes car c'était justement la conférence de presse de lancement de la 66e édition du tournoi Pee-Wee de Québec aujourd'hui. Restez avec nous. Vous êtes à l'émission Nageur sur Boulevard 101. On en jase sur les ondes de Boulevard 102 avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte pour cette semaine. Le retour de Gravel suit à 14h avec Denis Audrey et Véro. Farnell Morisset à 15h30. Vous voulez un cours d'histoire sur le Groenland? Le meilleur prof en ville, c'est Farnell Morisset. Et il est avec la gang de Gravel dans le retour à 15h30. Ne manquez pas ça. Mathias, avant de faire du sport, on vient d'écouter une partie du point de presse de Mario Roy, qui dit vouloir se présenter comme candidat à la chefferie du Parti libéral, mais il y a environ 18 000 $ à rembourser avant de pouvoir officialiser sa candidature, 750 signatures. Et là, il fait un appel à la population d'aller faire des dons puis d'aller signer pour sa candidature. Ça a peu de chances de réussite, selon moi.
Oui, puis pour vrai, on en parlait il y a de ça au cours de l'émission. Le problème en ce moment, c'est que oui, il se fait connaître. C'était un inconnu avant, puis présentement, vous voyez, on en parle. Là. Il se fait connaître, mais il se fait pas connaître pour les bonnes raisons. Puis avec un appel à la population pour payer une dette de 18 000 $ et par la suite 30 000 $ qu'il devra payer pour faire la nouvelle course, il se décrédibilise. Il se présente comme un personnage politique peu crédible. C'est ça qui se passe en ce moment, malheureusement.
Vraiment, malheureusement, avec beaucoup d'hésitation dans son point de presse. C'est clair que Véronique Bergeron, Denis Gravel et Audrey Pinchot vont traiter de la situation. Maintenant, Mathias, on se transporte au Centre Bell hier. Ma parole!
C'est 3-2 Montréal. Les défenseurs animent le spectacle au Centre Bell. 20 secondes d'intervalle. Ça en fait 16 et ça fait ça un point pour Alexandre Carrier. La remise.
Deux buts en 20 secondes d'Alexandre Carrier, le Canadien qui vogue vers une victoire de 6-3 avec des buts également pour Noah Dobson et Mike Madison contre les Canucks. Donc, c'est une belle victoire pour le Canadien après justement cette défaite contre les Red Wings de Détroit.
Oui, on en parlait hier. Ça peut paraître comme un match piège parfois, ces fameux matchs-là contre des équipes qui sont vraiment nulles. On va se le dire, ça va pas bien pour les Canucks cette année. Mais le Canadien a très bien répondu. Plus de 40 tirs hier. Il y a eu un blanchissage message dans le dernier match contre les Red Wings, puis le mot d'ordre dans le vestiaire du Canadien, c'était clair. Plus de tirs, plus de circulation devant le filet, puis c'est exactement ça qu'on a vu. On a bombardé le filet, on avait toujours quelqu'un, que ce soit Slavkovski, que ce soit Texier, n'importe qui, il y avait toujours quelqu'un devant le filet du gardien adverse. Gros, gros match encore du trio des recrues, Demidov, Slavkovski, Kapanen, continue d'impressionner. On l'a dit, deux buts d'Alexandre Carrier qui a connu tout un match hier, puis les défenseurs en général, l'appui à l'attaque qui a été effectué par les défenseurs hier est tout simplement exceptionnel. On le voit très bien depuis le début de la saison, puis c'est une des forces offensives des Canadiens, la rapidité de nos défenseurs puis l'appui qu'ils sont capables de donner à l'attaque.
Ce soir, c'est face aux Capitals de Washington, un 2-2 où on doit voyager. C'est jamais facile pour le Canadien. Samuel Montembeau sera devant le filet. Les Capitals ont Tom Wilson dans leur formation, l'ailier physique qui a 22 buts depuis le début de la saison. Et Alex Ovechkin qui ne dérougit pas avec 20 points. Ta prédiction pour ce soir? Moi, je vais avec une victoire des Caps. 4-2 dans un filet désert. Je pense que le 2-2 et le 5 matchs en ce soir là, va paraître chez le Canadien de Montréal.
Ouais, même moi, j'irais peut-être pour un 5-2. En tout cas, j'espère que ça ne va pas se rendre en 5 buts. On veut une bonne performance de Montembeau. Une chose est sûre, Alex Ovechkin est toujours bon contre le Canadien. Pourquoi?
Oui, ça, c'est vrai.
Je ne sais pas. Non, mais chaque fois qu'il joue, j'ai l'impression qu'on joue contre Ovi de 20 ans. Puis je suis comme, ben voyons donc. Ça permet... En tout cas, on va espérer qu'il soit un peu moins bon. Mais c'est sûr, deux matchs en deux soirs, quand l'autre équipe est reposée, et à la maison. C'est un gros défi qui attend le Canadien ce soir.
Énorme défi pour le Canadien de Montréal. Le match est à 19h sur les ondes d'RDS avec le collègue Pierre Houde et Marc Denis. Courte pause à Boulevard 101, l'émission On en jase. Par la suite, Patrick Dome, directeur général du tournoi Pee-Wee de Québec, vient s'asseoir avec nous. C'était le lancement officiel aujourd'hui de la 66e édition du tournoi Pee-Wee de Québec. Un événement extraordinaire. On est choyé d'avoir ceci dans nos murs dans la capitale nationale.
Juste te raconte l'actualité.
Boulevard 102.1.
Merci à Charles-Étienne par texto qui nous rappelle que Tom Wilson est blessé du côté des Capitals de Washington, donc ne sera pas en uniforme ce soir contre le Canadien de Montréal. C'est une bonne nouvelle pour le Canadien, peut-être une moins bonne pour l'équipe Canada aux Jeux Olympiques, mais devrait revenir. Mais parlant de ça, Mathieu, est-ce que tu as vu Braden Point hier qui s'est blessé à une jambe? Pas bon pour les Jeux Olympiques, franchement. Malheureusement pour notre équipe canadienne. Parlant de hockey, on a un homme que j'admire ici en studio avec nous. Un gars qui a encore une énergie extraordinaire. Patrick Dome, directeur général du tournoi Pee-Wee. Comment ça va, mon chum?
Ça va super bien, vous autres?
Ouais, ça va super bien. Pat, t'es-tu à ta dernière année? Non. Ton avant-dernière année?
Avant-avant-dernière.
Avant-avant-dernière. Fait que tu restes encore 3 ans.
Dans le fond, ça, c'est... Je fais celui-là plus 2.
Plus 2.
Et puis... Mais ça aurait dû être celui-là plus 1. Ouais. Mais là... Quand on a engagé Julie, on était dans les préparatifs du 65e.
C'est ça.
Fait qu'on a engagé la personne qui a remplacé Julie. Fait que là, on voulait pas le mettre dans la fosse au lion, Nicolas. Fait que, mais c'est pas grave. Là, on travaille en face de l'autre. On apprend à se détester, puis à s'aimer, puis à se connaître. Mais
ça brasse-tu des fois de toi, puis Julie?
Non, c'est juste que c'est une habitude aussi.
Ouais. Hein?
Fait que, mais non, c'est bien, bien correct. Parce que, de toute façon, comme je disais à tout le monde, je suis même pas inquiet pour...
Non.
Je suis pas inquiet pour elle, sincèrement. C'est on commence, puis c'est là... C'est à par soi aussi, moi-même, perso, que... Hey, Christy, c'est vrai que c'est gros. C'est big, mais je le répète tout le temps, le plus difficile, c'est le côté tout gérer les bénévoles. Il n'y en a pas un pareil.
Non.
Et tous les contacts de ton cellulaire.
As-tu assez de bénévoles?
On n'en manque jamais. C'est j'en parlais ce matin avec Jean-François Simard.
Votre gang est incroyable.
Et on se disait, tu sais, il y a tellement de compagnies qui cherchent des employés qui sont prêts à payer 25-30 piastres de l'heure. Je refuse des bénévoles. Fait que ça, ça fait partie un peu de ce qu'on a bâti comme culture.
Exactement.
Au tournoi. Hein,
vous êtes une famille.
On est une grande famille. Quelqu'un décède, nous autres, on est tous là.
C'est ça.
Quelqu'un ne file pas, on va le remplacer, on va s'organiser. Mais oui, c'est une belle famille.
Pour parler de grandeur de l'événement, parce que tu disais, même moi, en transférant des dossiers, je me rends compte à quel point c'est gros. Vous allez avoir votre 12 millionième spectateur cette année.
Fascinant.
C'est fou dans la tête, ça.
Écoute, ça arrive tellement pas souvent que quand hier, je t'appelle mon point de presse, puis j'ai dû faire 4 erreurs dans le mot millionième tellement que je le fais pas souvent. Merci Antidote.
J'ai le communiqué devant moi, puis là, je voyais le 12 avec les zéros, puis là, j'étais là, ah ben c'est bien 12 millions, ça fait 3-4 fois que je le regarde.
Écoute, je sais pas, j'ai oublié de regarder avant d'arriver. Je pense que la première année, c'était 19 000. Le nombre de spectateurs en 1960.
Puis là, on est rendu à combien par année?
On vire aux alentours de 200. Quand on a 200, on est très content.
C'est
là.
Extraordinaire.
Mais écoute, mais la première année, ils ont transféré les finales au Colisée parce que c'était au Parc Victoria.
C'est vrai!
Puis d'après moi, il y a eu 19 000 spectateurs, il y en a eu 18 000 la dernière journée, ouais, puis 1000 pour les autres. Là.
Dans la vieille Arena Victoria, il n'y a pas grand place.
Fait que, mais c'est fantastique de voir ça. Ça aussi, c'est. On en parlait, là. T'es... Si on n'a pas les gens de la ville, si on n'a pas les partenaires, puis si on n'a pas les bénévoles, je suis peut-être rendu animateur de réseau.
Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, tu parles bien au micro. Là. Mais, Mathias, c'est des beaux souvenirs, toi, du tournoi, puis oui.
Hey, oui, j'ai pas eu la chance de faire personnellement. Mm-hmm. Là, ça. Je pense que tous les joueurs de hockey, parce que j'ai joué au hockey toute ma vie, c'est un petit pincement au cœur quand on se dit « crime, c'est tellement un bel événement, puis on a tellement plein de souvenirs ». En étant jeune, mon frère l'a fait que je suis allé le voir. J'ai même une année gagné une loge avec Peter Stachny pour le tournoi. Wow. Puis oui, c'est des souvenirs incroyables. Mais j'ai jamais eu la chance de vivre. Mais toutes les personnes dans mon entourage qui ont la chance de participer à ce tournoi-là, quand ils sont jeunes, c'est des souvenirs qui restent toute une vie. Là. C'est fantastique comme expérience.
Moi, j'ai joué en 79, là.
Je suis né en 79.
et je m'en souviens comme c'était hier. Et puis avec tous les gars avec qui tu parles, que ce soit des anciens joueurs pros ou des joueurs pros aujourd'hui, ou même le petit gars de Château-Richer ou de Val-Belair, lui aussi il s'en souvient. C'est le tournoi. Tous les grands ont joué là, à part Crosby qu'on avait refusé. Mais c'est vrai.
Mais... Oui, raconte-moi cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour refuser Sidney?
Il était pas bon.
Sidney était pas assez bon?
L'équipe était pas bonne.
OK.
OK. Donc, c'est le seul grand, mais écoute...
On dirait qu'il jouait dans un petit village, lui, là.
À Cold Harbour. Mais, tu sais, il y en a quoi? 1415, 1425 qui ont joué au tournoi puis qui ont joué... ou qui joue encore aujourd'hui dans la Ligue nationale.
Ben d'ailleurs, dans les personnalités qui vont être là, Joe Thornton, Jean-Maudit Marchessault, on l'aime ça à Québec, lui. Ouais. Maxime Talbot, Alex Carrier, qui vient d'en scorer deux hier pour le Canadien, Crazy Eddie Belfort, David Savard et la joueuse de la victoire de Montréal, Catherine Dubois.
Ouais.
C'est un line-up extraordinaire pour les gens.
Puis c'est pas fini.
OK.
Non, c'est pas fini.
Puis là, quand tu nous dis que c'est pas fini, d'habitude, tu vas nous annoncer une grosse surprise à un moment donné.
Non, c'est sûr. Je me souviens de l'année où on avait annoncé, puis on l'avait pas dit à la conférence de presse, mais c'était Carey Price là, qui...
Oui, c'est vrai, je me souviens de
ça. Et ça avait été la folie. Donc, c'est sûr que c'est une Olympique. Il y a beaucoup de joueurs qui sont disponibles. Bon, fait que c'est le 66e. On a travaillé sur Mario, on pouvait pas. Mais en tout cas, on travaille encore. Il reste encore un gros mois de travail. J'adore mais c'est sûr qu'il y a d'autres nouvelles qui s'en viennent.
21 nations différentes qui ont participé au tournoi. Il y en a une nouvelle aujourd'hui. Cette année, c'est la Thaïlande. Comment qu'on fait pour aller chercher un club en Thaïlande?
Le nombre de pays total qui ont joué depuis le début, c'est 39.
Oui, 39 pays.
Mais cette année, il y a 21 pays représentés. C'est un record. On n'a jamais eu ça. Et pour la Thaïlande, tu sais, on refuse 200 équipes. On accepte 120, 118 cette année.
Ouais.
On en refuse 200. On ne compte pas aux portes parce que, dans le fond, ça serait ridicule d'aller cogner. C'est eux autres qui viennent nous voir. Et ça, c'est un coach qui est de la Saskatchewan, qui est parti, qui a déménagé en Thaïlande, qui, lui, est un joueur de hockey en Saskatchewan. Là. Il a juste ça à faire. Regina pour Saskatchewan.
Ben oui.
Hockey.
Mon frère habitait un an à Regina, puis il dit le hockey dans la rue, je n'avais jamais vu aussi populaire que là.
Et ce gars-là provient de Saskatchewan, part un programme de hockey. Et décide de... Lui, il savait qu'il connaissait le tournoi. Il dit, écoute, moi, je bâtis un programme de hockey avec des joueurs. Et puis, écoute, ils sont même pas 2B, ils sont 2A.
Wow!
Fait que, tu sais, quand on parle de l'émergence du hockey partout sur la planète, là, quand on voit ça, quand tu vois la Tchéquie qui bat le Canada au championnat du monde junior, ben ça fait partie de ça. Il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de joueurs... Beaucoup de patineurs de vitesse qui proviennent de l'Asie, de la Corée.
C'est vrai!
Donc, ça a un lien, ça aussi. Donc, mais ce gars-là a parti à un programme de hockey. Il est venu cogner à notre porte. Il dit, gars, j'aimerais ça apporter une équipe. Quand à première vue, j'ai pas parti à rire, mais tu dis, OK, t'es-tu sérieux? Parce que
là, il faut que t'envoies des vidéos de l'équipe. Exact. Ça, c'est comme ça fonctionne.
Et là, on a vu le vidéo. Okay, non, ils sont pas 2B, ils sont 2A. Là, ça.
Incroyable le travail fait là-bas.
Écoute, tu pars de Thaïlande, tu pars d'Australie. On a un club d'Australie cette année. Là. Depuis la pandémie, qui n'était pas venu. C'est du stock. Là. Ben les filles et les gars, ils ont 12 ans.
Les retombées économiques, justement, c'est quoi?
18,4.
Wow! Incroyable.
Pour la région.
C'est fou raide.
Puis on a fait un beau partenariat, on a plein d'activités, on a créé Fleur de Lys, mais on a fait aussi un partenariat avec la SDC du Vieux-Québec.
Mm-hmm.
Écoute, les commerçants disaient, Patrick, nous autres, il faut qu'on fasse de quoi avec vous autres. 90% des gens avec qui on deal, c'est des gens qui viennent autour de notre pays. Donc, écoute, on a... Mais tout ça, ce que je dis là, c'est tout sur notre site web. Dans
oui, on peut juste aller voir ça.
Mais ils disaient, c'est capoté comment... c'est une période creuse de l'année un petit peu, après les fêtes, parce que le monde a moins d'argent. Fait que pour les commerçants, les centres d'achat, tout ça, c'est vraiment une manne qui tombe pour la ville de Québec.
Stationnement gratuit, navette gratuite du RTC, et vous ramenez ma journée préférée, la journée des mascottes. Ça, c'est trippant.
J'ai vu, en plus, il y a du bon stock cette année, en termes de mascottes.
À cause des Olympiques, encore une fois.
Ben oui, mais là, Gritty, la mascotte des Flyers de Philadelphie, elle va-tu nous sacrer une volée quand on va avoir?
À tout le monde, non, mais c'est-tu quoi? C'est the talk of the town, là, sincèrement, Gritty. Et écoute, puis moi, quand on a commencé ça, il y a 3 ans, les mascottes, parce qu'on a un contact qui a un contact, puis il dit, tu sais, c'est cool, là. Puis il y a une convention de mascottes. Hein. Il y a vraiment le...
Explique-nous ça, là.
Ces gars-là vont à des cours à New York à tous les ans, là. Et tu peux pas... Si tu as une game à la maison, la mascotte, elle peut pas ailleurs. Elle peut pas être ailleurs.
Elle peut pas être ailleurs.
Tu peux pas avoir 2 mascottes en même temps, à même place. Il y a une convention de la façon dont tu dois te tenir, des choses comme ça. Et le gars me racontait ça, je dis, ben voyons donc. Toi.
Gritty, tu mets à l'amende des fois?
Et tu sais qu'il y en a, c'est leur job à temps plein.
Ben oui, c'est clair.
Je peux te confirmer qu'il y a une mascotte qui gagne dans les 6 chiffres. Là. OK? Mais quand on a commencé ça, les gars disaient, ah, c'est dingue. Puis on les traite comme des rois. Pour nous autres, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment dans l'esprit du tournoi, les mascottes.
C'est le 14 février prochain, en passant, c'est à la Saint-Valentin, c'est un samedi.
Fait Gritty va être là, t'as la mascotte de Utah, t'as la mascotte d'Ottawa, Youpi va être là, la mascotte des...
Ouais, des prédateurs de Nashville, ouais. T'as Sparky aussi, des Islanders. La mascotte de Utah, c'est le fun, parce que, dans le fond, c'est une première, elle arrive, là.
Ouais.
Donc la première fois qu'on peut la voir...
Puis les gars, écoute, le gars qui s'occupe de ça, il m'envoie un message. Il dit, Patrick, il dit là, il dit, j'étais avec la mascotte de Toronto, New Jersey, là. Puis il dit, il est fâché un peu qu'on ne l'ait pas invité cette année. Fait que, puis ceux de l'année passée, ils veulent tous revenir. Ils veulent tous revenir. Puis écoute, mais ces gars-là, c'est des tripeux. Puis je te le dis, là, on les traite. Ils vont être dans un glissade à la terrasse du frein. Ils vont faire un concours. C'est celle-là qui va gagner, qui va descendre le plus vite. Oh. C'est vraiment cool, sincèrement.
Ils sont écœurants. En 30 secondes, Pat Dom, c'est qui les équipes à surveiller cette année dans le tournoi?
Écoute, 2 équipes, là. C'est sûr qu'on a nos chouchous avec les petits remparts, les petits nordiques aux 2 élites qui ont des bonnes équipes. Les Lions du Lac-Saint-Louis qui représentent les Canadiens de Montréal.
Grosse formation dans le 3A?
Oui, dans le 3A avec les Red Wings de Detroit qui est coaché par Max Pacioretty.
Max Pacioretty coach les petits Red Wings, son gars, je la vois.
Ouais.
C'est cool. Y a-tu d'autres vedettes comme ça qui coachent que tu sais?
38. Richard Zetnik. Écoute, la liste est là.
38 anciens de la Ligue nationale.
Écoute, les deux frères Stachny, Paul et Yann, vont être ambassadeurs pour les petits Blues de Saint-Louis. Donc, écoute, il y en a.
La liste est sur le site,
Michael, dans le fond. Michael Mikhaïlov qui avait joué pour les Nordiques dans le temps, qui est dans la Saint-Louis. Donc, il y en a une panoplie.
Magnifique. J'avais eu la chance de rencontrer Vincent Le Cavalier lorsqu'il était venu avec son gars. Un gars hyper sympathique.
Juste vous dire, avant la fin de l'émission, là, parce qu'on arrive à la fin, il va y avoir un point de presse du SPVQ. Ils ont découvert malheureusement un corps près du quai 22. Donc, on va avoir plus d'informations. C'était à 14h15 dans le show du retour.
Donc, la personne qui était disparue malheureusement d'origine mexicaine, ça pourrait être ce corps-là.
Ça pourrait être, effectivement. On va avoir plus de réponses aux questions tout à l'heure.
Pour avoir toute l'information, suivez Gravel dans le retour qui commence dans quelques minutes avec Denis Audrey-Véro. Pat Dom, bon tournoi. Puis oui, merci. C'est clair que je vais encore aller passer 2-3 journées-là. Puis mon père a hâte, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il a déjà préparé ses lunchs pour venir passer journée au Centre Vidéotron.
C'est le fun.
Yes. Merci, Pat Dom, de nous donner cet extraordinaire événement. Le retour de Gravel, tu es à l'instant même. Merci d'être à l'écoute d'On en jase sur les ondes de Boulevard 101. Merci d'être des auditeurs fidèles de Boulevard 101. On se parle demain, guys. Bye-bye.
Bonne journée.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
Les REA, c'est important et on se doit s'y pencher. Ils doivent toutefois faire partie d'un plan financier global. Ce dernier vous aidera à sauver de l'impôt et tracera la voie vers la retraite de vos rêves. Avez-vous le vôtre?
Équipe Marc-Antoine Reid, IG Gestion de patrimoine, cabinet de services financiers, 1-833, ton plan.
Le bonheur, c'est pas compliqué. Chez Cora Déjeuner et Dîner, le bonheur, tu l'as pour seulement 12 $. Une sélection de 5 plats à un prix qui fait du bien. Puis tu repars le ventre plein puis le cœur léger. Le bonheur à 12 $, c'est en salle à manger pour un temps limité, seulement chez Cora.
Davie, le plus grand chantier naval du Canada, recrute. 500 postes à combler dès maintenant. Soudeur, constructeur naval, assembleur mécanique, tuyauteur et plombier sont recherchés. Avec des projets jusqu'en 2040 et des conditions solides. Ose le grandiose pour ta carrière. Postule au devirecrute.ca.
La remise météo fait son grand retour cette année chez Enviro-Confort. Économisez gros sur votre facture avec 15 % de remise en janvier, 10 % en février et 5 % en mars. Et c'est sans parler des subventions. L'offre est disponible jusqu'au mois de mars sur les thermopompes murales et centrales. Profitez-en pendant qu'il fait encore froid. Financement disponible. Détails au enviroconfort.com.
Vivez dans un immeuble qui se distingue à la tête des ponts. La Forêt Québec propose des unités avec une vue exceptionnelle sur le fleuve, du studio au 5,5, ainsi qu'une formule tout inclus. Espace commun complet, commerce au rez-de-chaussée et plus. La Forêt Québec, audacieusement bien pensée.
En janvier, chez Desjardins Volkswagen, profitez d'avantages exclusifs. Clients Volkswagen.